Bonsoir à tous. Bienvenue à cette dernière soirée de notre proposition paroissiale La vie plus belle. Et je sais, n'en doutez pas, combien cette soirée est un tout petit peu particulière, puisque j'imagine volontiers peut-être que l'un ou l'autre d'entre vous aurait tellement aimé se retrouver devant sa télévision tranquillement installée. Regardez en si bonne compagnie Manon des Sources sur Arte. À moins qu'il y ait autre chose. Voilà, en tout cas, je suis ravi de voir que notre assemblée résiste quand même un petit peu, malgré l'appel d'autres sirènes. Bienvenue à ceux d'entre vous qui rejoindraient pour la première fois ce cycle. Je veux croire que nous allons faire à nouveau ce soir ensemble un pas de plus sur ce chemin de l'émerveillement face à la vie et cette vie qui vient. J'emprunte quelques mots à Maurice Zindel. Il s'agit de vaincre la mort aujourd'hui même. Le ciel n'est pas là-bas, il est ici. L'au-delà n'est pas derrière les nuages, il est au-dedans. L'au-delà est au-dedans. Comme le ciel est ici et maintenant. C'est aujourd'hui que la vie doit s'éterniser. C'est aujourd'hui que nous sommes appelés à vaincre la mort, à devenir source et origine, à recueillir l'histoire pour qu'elle fasse, à travers nous, un nouveau départ. Aujourd'hui, nous avons à donner à toute réalité une dimension humaine pour que le monde soit habitable, digne de nous, et digne de Dieu. Après avoir reçu de manière renouvelée les concepts en jeu dans le débat actuel sur la fin de vie, souvenez-vous, dignité, dépendance et interdépendance, autonomie et vulnérabilité, liberté et solidarité, après avoir suivi le questionnement de Frédéric Chaudier à travers son film Les yeux ouverts, qui nous a également conduit à être témoin de ces interrogations, des interrogations de soignants face à la fragilité, nous voulons approcher cet aujourd'hui dont parle Maurice Zindel. Nous allons le faire ce soir en deux temps. Un premier temps en recueillant l'apport d'Antoine Dabundo sur les aspects législatifs et les enjeux des débats à venir. Puis dans un second temps, Antoine animera une table ronde avec trois témoins qui viendront tout à l'heure sur cette estrade. Oui, je le redis, l'enjeu est bien cet aujourd'hui, cet ici et maintenant, ce moment favorable où nous choisissons la vie, non par idéologie ou dogmatisme, mais parce que la vie nous choisit. Elle est réponse à un émerveillement inattendu, l'émerveillement de cet enfant qui sommeille en nous, devant une crèche, l'émerveillement plus profond encore de celui qui sait qu'il n'est pour rien dans la beauté de la réalité qu'il contemple. Car la réalité contemplée auprès des personnes en fin de vie déborde les corps meurtris, déformés par la maladie. Elle est ce lieu de perception de ce que d'autres ne voient pas, de ce que d'autres n'entendent pas. Une puissance d'amour qui se dilate jusque dans les gestes les plus silencieux. Je m'en tiens là, non sans rappeler que vous avez bien voulu nous transmettre, soit par mail, soit par écrit, les dernières semaines des questions. Celles-ci ont été toutes transmises à nos intervenants de ce soir. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je cède la parole à Marie-Christine qui va nous présenter premier intervenant et animateur de la table ronde.
Donc je vais présenter très rapidement Antoine, puisque lui après présentera, etc. Donc pour éviter de passer la soirée de présentation en présentation, juste vous dire qu'Antoine Dabundo est journaliste à La Croix depuis plusieurs années, après avoir été rédacteur en chef au Pèlerin, journal dans lequel nous avons collaboré. Journaliste à Bayard depuis,
2000.
Depuis l'an 2000. Et il vient à la Croix de prendre la responsabilité de la rubrique bioéthique. Donc c'est peut-être la première fois, que, Antoine, que tu interviens sur ces sujets-là. C'est un peu le baptême du feu. Voilà. Je laisse la parole à Antoine.
Bonsoir à tous, merci d'être venus quand même assez nombreux pour cette dernière soirée, enfin cette dernière soirée du cycle si j'ai bien compris, parce que peut-être que la réflexion sur ce thème de la fin de vie se poursuivra au sein de la paroisse. Merci au Père Emmanuel de me faire cette confiance, de venir présenter le cadre législatif, à Marie-Christine d'avoir songé à moi aussi pour essayer d'animer avec vous cette soirée. Je vais avoir des paroles un tout petit peu plus, abruptes que le Père Emmanuel n'a eu en présentation, mais c'est important aussi pour réfléchir à cette question de connaître d'abord le cadre législatif qui règle les conditions de la fin de vie en France. Quand on parle de fin de vie, c'est évidemment pour les malades incurables et qui ont des grandes souffrances.
Micro.
Vous m'entendez pas ?
Non, oui.
Je vais juste faire une petite parenthèse. Vous pourrez à la fin avoir le compte rendu de la conférence d'Antoine. Donc si je vois qu'il y en a certains qui prennent des notes, donc vous pouvez évidemment en prendre. Mais sachez que vous aurez tout ça sur papier à prendre à la sortie, si vous le souhaitez.
Voilà, je vais essayer aussi de tenir correctement le micro pour que vous m'entendiez bien. Oui, effectivement, j'ai rédigé une petite note et Marie-Christine ou Père Emmanuel vous la fera parvenir cette note à ceux qui la demandent. Ça vous évitera d'avoir à prendre des notes sur toute la durée de l'exposé. Donc ce cadre législatif, d'abord trois remarques. Il est relativement récent parce qu'il a une trentaine d'années. Il a beaucoup évolué. Puisque sur cette période-là, il y a eu 5 grandes lois, et essayer de dire un petit peu quelles sont, de mon point de vue, les grandes raisons qui expliquent ces changements. D'abord, il y a une raison majeure, c'est que les conditions de la fin de vie ont sensiblement évolué en France. Alors, sans être trop schématique, disons que, pour le dire rapidement, auparavant, on mourait plutôt à domicile, entouré des siens, et aujourd'hui, on meurt plutôt en France à l'hôpital et un peu esselé. Enfin, en tout cas, esselé de ses proches, puisqu'il y a des équipes médicales autour de soi. Mais disons, grosso modo, c'est le grand basculement qui s'est fait. Et ce grand basculement, il est dû à une bonne nouvelle, ce qui est ceux des progrès de la médecine, qui ont permis à la fois le vieillissement de la population, mais en même temps le fait que plus on vieillit, plus on a des problèmes de santé, et que ces progrès de la médecine ont fait que beaucoup des maladies de la vieillesse ont été, sont devenues des maladies chroniques. Donc on vit aussi beaucoup d'années, quelquefois, pour certains, en mauvaise santé, et avec des problèmes de santé parfois lourds. Si bien que, grosso modo, auparavant, la mort, c'était quelque chose du cercle familial ou des proches, et que maintenant, la mort, c'est plutôt devenu un peu le... Ça a été un peu délégué à la médecine, d'où ces problèmes éthiques qui nous occupent. Il y a aussi, évidemment, la pression d'affaires très, très médiatisée. On en reparlera tout à l'heure, on donnera quelques grands noms sans les détailler. Et puis il y a une demande de la société qui s'exprime encore plus fort aujourd'hui, mais qui s'est exprimée au cours de ces dernières décennies, qui est la demande de reconnaître des droits des patients. C'est-à-dire que, grosso modo, le fait que la mort a été déléguée aux médecins a fait que les gens se sentaient un peu, les objets de la médecine. Et ils ont voulu reprendre un peu le contrôle. Il y a eu des grandes lois qui ont permis de redonner un peu de ces droits aux patients. Alors, quelles sont les grandes lois? Puisque j'ai dit qu'il y en avait eu 5. Avant de commencer par les grands textes de loi, il faut quand même signaler un premier grand texte d'importance. C'est la circulaire Larocque, enfin dite Larocque, du 26 août 1986. Donc, vous voyez, c'est relativement récent. Pourquoi circulaire Larocque? Parce que c'est du nom de Geneviève Larocque, une haute fonctionnaire, entre parenthèses la cousine du résistant Pierre Larocque, qui est à l'origine de notre système de sécurité sociale, et qui va jouer un rôle essentiel dans le développement de ce qu'on appelle les soins palliatifs. On verra tout à l'heure, vous vous avez déjà abordé cette question des soins palliatifs. On verra tout à l'heure ce que recouvre cette médecine un peu particulière des soins palliatifs. 86, donc, première grande circulaire sur le développement de ces soins palliatifs en France, mise en place par la ministre de l'époque, Michel Barzac. Autre date importante, même si ce n'est pas tout à fait le cadre législatif, 1989-1990, la création d'une société savante qui est aujourd'hui encore active, qui s'appelle la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, la SFAP, qui va jouer un rôle majeur dans le développement de ces soins palliatifs et qui va s'emparer de cette circulaire. Et une SFAP, pour dire l'acronyme, qui est très en lien avec les milieux chrétiens et notamment catholiques. La première grande loi, c'est celle de 1995, qu'on appelle la loi Neuwirth, qui va instituer le droit de recevoir des soins, pardon, je m'aperçois que je place pas bien le micro, qui accorde le droit de recevoir des soins visant à soulager la douleur. Elle est mise en place par ce résistant égoliste qu'on surnomme, là aussi pour l'anecdote, Lulu la pilule, puisque c'est lui qui a promu la contraception en France en 1967. Et là, son épouse souffre d'un cancer avec des douleurs très très fortes. Il regarde ce qui se passe aux États-Unis où il y a une pratique du soulagement de la douleur beaucoup plus importante et il va développer cette première grande loi de 1995 sur le droit à être soulagé de ses douleurs qui accompagne la circulaire sur les soins palliatifs. C'est aussi lui qui va inspirer une seconde loi qui est de juin 1999 cette fois-ci, qui va donner une définition des soins palliatifs, on y reviendra peut-être tout à l'heure, et qui vise aussi à garantir à tous, en tout cas tous ceux qui peuvent en avoir besoin, qui va garantir normalement à tous, en théorie, l'accès à ces soins palliatifs, et qui encadre aussi, puisqu'on aura une bénévole, l'intervention des bénévoles auprès des patients, et prévoit le premier cadre d'un congé pour les aidants. Troisième grande loi, c'est la loi dite Kouchner, du nom du ministre de la Santé de l'époque, c'est mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Cette loi, elle institue trois grands droits. Le droit d'être informé par les médecins et d'avoir accès à son dossier médical, ou aussi le droit de ne pas vouloir savoir, de ne pas être informé. À chaque fois, c'est un droit contrasté. Le droit de consentir aux soins, c'est-à-dire d'exprimer un consentement libre et éclairé, rétractable, et aussi le droit de refuser tout traitement, y compris ceux qui permettent le maintien en vie. Et enfin, le droit de désigner une personne de confiance qui va accompagner le patient, qui peut être pris parmi ses proches, mais qui peut être aussi un ami, une personne de confiance, et qui la représente si ce patient-là, pour des raisons médicales, soit parce qu'il est plongé dans un coma, soit parce qu'il a une maladie neurologique, n'est plus en mesure d'exprimer sa volonté. Je note que cette loi de mars 2002 va être suivie d'une affaire retentissante, novembre 2002, c'est l'affaire Vincent Humbert. L'avant-dernière grande loi, c'est la loi Leonetti d'avril 2005, vous trouverez les dates précises dans la petite note que j'ai rédigée, qui est relative aux droits des malades et à la fin de vie, qui institue le devoir pour l'équipe médicale de s'abstenir de toute obstination déraisonnable. C'est grosso modo l'ancien acharnement thérapeutique. Le médecin doit, enfin les équipes soignantes doivent s'abstenir de cette obstination déraisonnable, c'est-à-dire peuvent prendre la décision d'arrêter tout traitement qui paraîtrait disproportionné ou devenu inutile. C'est une décision qui doit être prise de manière collégiale par le médecin, et motivée, et qui prend en compte également la volonté du patient. Dernier grand droit institué par cette loi Leonetti, c'est le droit de rédiger des directives anticipées. C'est une sorte de recueil des volontés d'une personne concernant les conditions de sa fin de vie,
dans la mesure où, là aussi, il serait placé dans la situation de ne plus pouvoir les exprimer. Et là aussi, après cette loi, il va y avoir une série d'affaires très médiatisées par des associations militantes hein, pour l'euthanasie, en faveur de l'euthanasie. C'est des affaires que vous avez peut-être entendu parler. En 2008, l'affaire Chantal Sébir. En 2011, l'affaire Nicolas Bonne-Maison. En 2013, l'affaire Vincent Lambert, cette fois-ci, qui va décéder en juillet 2019, qui va donner lieu à une bataille entre sa famille qui va durer. Et puis en juin 2017, l'affaire Anne-Berre. Donc on voit qu'à chaque fois, ce processus législatif s'accompagne de beaucoup de polémiques médiatisées. Dernière loi, enfin, celle qui est la plus large, c'est la loi Claeys-Leonetti de février 2016. Elle revient sur la question de la personne de confiance qui prévaut sur toutes les autres cette fois-ci, y compris celui de la famille, ce qui crée quelquefois des incompréhensions dans des situations difficiles. Quand le patient toujours ne peut plus s'exprimer, puisque à chaque fois que le patient peut s'exprimer, c'est son avis qui compte, hein, ni celui de sa famille, ni celui de la personne de confiance. Des directives anticipées qui sont opposables au médecin. Alors opposable, ça ne veut pas dire qu'ils s'imposent au médecin, mais ça veut dire que le médecin doit les prendre doit au moins vérifier qu'il y a bien des directives anticipées. Et prendre en compte leur contenu, mais il reste maître de décision médicale lorsqu'il juge que les traitements deviennent inutiles, disproportionnés, ou n'ont pour objet que de maintenir le patient dans un état de vie qui ne mène à rien. Et puis, cette loi Claeys-Leonetti donne un droit d'accès, et ça c'est un point très très important, à l'époque c'est très discuté, un droit d'accès mais sous condition à ce qu'on appelle la sédation profonde et continue jusqu'au décès. On a un médecin avec nous tout à l'heure à la table ronde, on examinera un petit peu plus cette notion-là. Elle est réservée à des malades qui sont incurables, qui ont des souffrances physiques ou psychiques réfractaires, et dont le pronostic, ça c'est le point le plus important, dont le pronostic de vie est engagé à court terme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire à court terme? On a une haute autorité de la santé qui va définir ce que c'est, et qui dit court terme, c'est quelques heures, quelques jours. Voilà. Donc, cette sédation profonde et continue jusqu'au décès, qui place le patient incurable et ayant ses souffrances réfractaires dans une sorte de coma qui va le conduire jusqu'à la mort, jusqu'à son décès, est réservé à des patients qui ont un pronostic engagé à court terme. Voilà un petit peu le cadre général de la loi et de la manière dont ces lois différentes encadrent les conditions de la fin de vie en France. Alors, je ne sais pas, Marie-Christine me fera un signe si je déborde. Dans ma note, j'ai un passage sur les soins palliatifs, mais je vais y revenir si j'ai le temps pour ne pas faire trop long et pour ne pas entamer sur la table ronde. Je vais vous parler maintenant de vers quoi on va aujourd'hui. Est-ce qu'on va vers une modification de la loi organisant la fin de vie? Je vais m'en tenir à des éléments, comme on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais on a quand même quelques éléments de cadrage pour comprendre dans quelle situation on se trouve. D'abord, rappeler que lors de la campagne présidentielle, la dernière, le candidat Emmanuel Macron s'est engagé sur ce sujet dans son programme qui a été présenté en mars 2022, et il a dit, je le cite, « Je soumettrai la fin de vie à une convention citoyenne et sur la base des conclusions de celle-ci, je soumettrai soit à la représentation nationale, aux parlementaires, soit au peuple, donc par référendum, le choix d'aller au bout du chemin qui sera préconisé. » Ça, c'était l'engagement de campagne du candidat Macron. Devenu président, on peut dire, enfin, sans lui faire offense, que son avis a beaucoup fluctué. Durant la campagne, il répétait encore que, interpellé par un citoyen qui a une maladie de Charcot, une affection neurodégénérative très très invalidante, il déclare à ce moment-là, à titre personnel, je suis favorable au système belge. Alors, le système belge, c'est un système qui a légalisé l'euthanasie il y a une vingtaine d'années. Euthanasie et suicide assisté, d'ailleurs. Hein, les deux sont possibles. On reviendra aussi là. Je pense que vous avez déjà eu un aperçu de la différence entre les deux. Donc là, il déclare, voilà, je suis plutôt favorable à ce système belge, donc plutôt favorable à la légalisation de l'euthanasie. Plus récemment, d'un retour de visite au Vatican, est-ce que c'est le pape François qui l'a fait changer d'avis, mystère, il déclare qu'il a plutôt une préférence, que le terme d'euthanasie ne lui convient pas, et qu'il a plutôt une préférence pour le suicide assisté, et il semble mettre aussi de côté le recours au référendum, qui est d'ailleurs assez contesté par des juristes, puisqu'il a des conditions particulières pour organiser un référendum. Il semblerait qu'une loi sur la fin de vie n'y rentre pas tout à fait. En tout cas, il y a une dispute de constitutionnalistes sur le sujet. Voilà un peu les engagements de campagne et les propos. Je ne les détaille pas tous, mais disons, voilà, une position encore assez fluctuante de l'Élysée sur ce sujet. Il reste malgré tout que le 13 septembre dernier, au moins en fidélité à son engagement de campagne, un communiqué annonce et convoque une convention citoyenne sur la fin de vie. Et cette convention citoyenne sur la fin de vie, vous en avez peut-être entendu parler, a été officiellement lancée le week-end dernier, le 9 décembre, et va se tenir jusqu'en mars. Donc il va y avoir 9 sessions de 3 jours à chaque fois en décembre, 2 en janvier, en février, 3 en mars, et le 19 mars, ou en tout cas autour de cette date, cette convention citoyenne devrait remettre des recommandations à l'exécutif. Cette convention citoyenne, elle devait être à 150, elle va réunir au départ 185 en fait citoyennes et citoyens qui ont été tirés au sort, puis ensuite sélectionnés selon certains critères pour représenter une sorte de mini-France, en tout cas un paysage le plus représentatif de la société française avec des critères de sexe, d'âge, d'origine géographique, socio-professionnelle. On a même inclus de manière assez volontariste des gens vivant dans l'outre-mer avec des situations un peu particulières dans ces territoires et également de manière volontariste 8 représentants qui sont des représentantes en fait désignés par le mouvement ATD Quart-Monde pour représenter un peu le monde de la précarité puisque ce tirage au sort s'est fait sur des listes téléphoniques et que souvent les gens en précarité sont auraient risqué d'être exclus de ce processus. Donc il y a eu la volonté d'inclure aussi ce public dans ce panel de citoyens. Ces citoyens, ils doivent répondre à une question qui a été formulée dans une sorte de lettre de mission par la Première ministre Elisabeth Borne. Je vous la lis, cette lettre. Cette question, le cadre d'accompagnement de fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits? Vous voyez que la Première ministre a pris garde de laisser une formule soit floue, soit ambiguë, selon le jugement qu'on aura. Elle dit le cadre, elle ne dit pas le cadre législatif, elle dit le cadre d'accompagnement. Donc on peut comprendre à la fois cadre législatif, est-ce qu'il faut changer la loi, ce que certains réclament, ou est-ce que c'est le cadre organisationnel du système de soins, est-ce qu'il faut réorganiser ce système de soins pour qu'il soit plus performant dans l'accompagnement des personnes en fin de vie? C'est tout le débat qui va avoir lieu au sein de cette convention. Je vous l'ai dit, elle doit émettre des recommandations qui vont être transmises au gouvernement normalement au printemps. Et à la différence d'une précédente convention qui avait eu lieu sur le climat, cette fois-ci, le gouvernement a été un peu plus clair sur la manière dont va travailler cette convention et la manière dont seront prises en compte ces recommandations. On les écoutera, on viendra, les ministres concernés ou la Première ministre viendra devant la convention dire « je retiens ceci » ou « j'écarte cela » et devra aussi expliquer les raisons de pourquoi est-ce qu'elle... telle proposition ou telle recommandation a été retenue et pourquoi telle autre a été rejetée. Mais il est bien évident que dans le fonctionnement des institutions françaises, on reste sur le principe de c'est bien les élus de la nation qui décident de la loi et qui la votent. Et donc, l'exécutif se réservera le droit de proposer ou non un projet de loi. C'est comme ça qu'on appelle un projet de loi qui, quand il vient de l'exécutif, et les parlementaires auront encore toute latitude pour faire une proposition de loi sur ce sujet s'ils le décident. Il n'est donc pas exclu que la Convention citoyenne ayant travaillé, les politiques décident, c'est pas qu'il n'est pas exclu, c'est qu'il est bien organisé de telle manière que ce soit bien les politiques qui à la fin décideront de ce qu'il convient de faire. Cette convention citoyenne, c'est pas la seule instance qui discute de la fin de vie en ce moment. Elle se développe, ce débat national se développe à travers plusieurs canaux. Deux ministres sont en charge d'animer le débat. D'un côté, Olivier Véran, qui est le ministre délégué au renouveau démocratique, et Agnès Firmin-Lebaudeau, ministre délégué à l'organisation territoriale des professions de santé. Tous deux donc sont en charge d'animer ce débat. Ils ont promis d'être plutôt discrets auprès de la Convention pour laisser les citoyens débattre entre eux de manière libre, sans trop de pression du pouvoir politique. Mais en même temps, ils organisent toute une série de concertations, notamment avec des parlementaires. Ils ont réuni un groupe de travail transpartisan des deux assemblées, avec des professionnels de santé aussi, et avec les organisations d'aidants. Ils ont vu également les représentants des cultes, les organisations militantes. Donc ils ont toute une série de concertations. Il y a également une mission de l'Assemblée nationale qui vient de démarrer et qui va évaluer la loi Claeys-Leonetti, donc la dernière que j'ai citée tout à l'heure de 2016. On va attendre les conclusions de cette mission parlementaire au printemps, donc au moment où tout sera normalement en place pour qu'une décision soit prise. On ne peut pas ne pas citer la petite polémique sur la composition de cette mission parlementaire d'évaluation, puisqu'elle est présidée par Olivier Falorni, un député qui avait, en avril 2021, fait une proposition de loi pour légaliser l'euthanasie. Et ces deux rapporteurs, comme dans sa composition générale, sont plutôt favorables à une évolution de la loi, ce qui laisse augurer ce qui permet à ses détracteurs de pointer un risque d'évaluation à charge et pas forcément à décharge. Il y a également très important un débat citoyen mené au travers de cette convention, mais aussi toute une série de débats qui seront menés sur l'ensemble de la France par ce qu'on appelle les espaces éthiques régionaux. C'est des sortes d'antennes locales du Comité consultatif national d'éthique dont je vais vous reparler tout de suite, le CCNE. Et puis enfin, un débat qui se développe à travers les médias, les réseaux sociaux et visiblement aussi la paroisse Saint-Christophe de Lille. Et d'autres paroisses, évidemment. Alors, un élément important du débat a été apporté par ce Conseil consultatif national d'éthique, le CCNE, qui a émis en septembre dernier l'avis numéro 139. Quand vous entendrez avis 139, ça vous rappellera cet échange entre nous. Cet avis 139 est important pourquoi ? Parce que pour la première fois, il ouvre la voie à une aide médicale à mourir. Alors, deux petits mots sur le Comité consultatif national d'éthique. Qu'est-ce que c'est ? C'est un organe de réflexion indépendant qui va fêter d'ailleurs ses 40 ans en mars prochain, et qui a été créé sous la présidence de François Mitterrand, juste après la naissance en France du premier bébé in vitro, le premier bébé éprouvette. Il était auparavant chargé de traiter des questions de bioéthique qui concernaient le début de la vie, toutes les nouvelles techniques de procréation médicalement assistée, et de fin de vie. Il réunit 45 personnalités qui sont désignées et qui sont censées représenter différentes disciplines scientifiques, médicales, sciences humaines, juristes, philosophes, représentants des cultes ou des personnalités qui se sont distinguées pour leur intérêt marqué sur les sujets de bioéthique. Et son rôle, c'est un rôle d'éclairer la décision politique, donc un avis, mais un avis consultatif, comme le sera celui de la Convention citoyenne. Ce n'est pas un avis qui s'impose aux politiques, c'est un avis qui éclaire le débat public sur les grands enjeux éthiques et les progrès scientifiques. Ce n'est pas la première fois que le Comité consultatif national d'éthique s'exprime sur la fin de vie. Il a déjà rendu au moins trois avis majeurs en 2000, deux sur l'arrêt de vie, l'euthanasie, en septembre 2000 de nouveau sur la réanimation néonatale, en septembre 2018 une contribution lors de la révision des lois de bioéthique. Ces lois de bioéthique, elles sont régulièrement révisées. Normalement, c'est tous les 5 ans. En fait, c'est plutôt tous les 7 ans. Et donc, le Comité consultatif national d'éthique participe à ce débat à travers un avis. Là, l'avis 139, pardon, il a quand même une couleur, une résonance particulière, parce que dans l'histoire de ce comité, c'est la première fois dans son histoire que le comité, pas d'ailleurs à l'unanimité, mais malgré tout à la majorité, a estimé qu'il existait une voie éthique vers une aide médicale à mourir. Et je ne dis pas à l'unanimité parce qu'il y a, je crois, si je me rappelle bien, au moins 8 membres. Ils ne sont pas 45 hein, dans le groupe de travail. Ils étaient un peu moins d'une vingtaine. Il y a au moins 8 membres qui ont émis ce qu'on appelle une réserve. Et pour la première fois, cette réserve a été publiée en même temps que l'avis. Les 8 membres ont dit grosso modo comment changer une loi qui n'est pas encore évaluée, qui est mal appliquée et qui risque de créer... qui risque de créer un antagonisme avec le développement des soins palliatifs. Enfin, bon, voilà, des membres de ce conseil assez réservés sur la proposition d'une évolution de la loi. Je l'ai dit, elle intervient quand même dans un contexte, enfin, cet avis intervient quand même dans un contexte assez particulier, parce que le comité peut être saisi par une instance politique, mais peut aussi s'auto-saisir. Et c'est ce qu'il a fait dans cette affaire-là, sur la fin de vie. Il a décidé de s'auto-saisir et a travaillé pendant un an. Le groupe de travail a travaillé pendant un an. Et il s'est auto-saisi. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un député, Olivier Falorni, avait proposé en avril 2021, 5 minutes, très bien, je vais tenir... cet Olivier Falorni, député, avait proposé en avril 2021 une proposition de loi qui a été débattue dans le cadre d'une niche parlementaire, la possibilité pour un groupe de proposer une loi. Une loi très libérale, je ne sais pas comment le terme est mal adapté, mais vraiment ouvrant le champ à la légalisation d'une euthanasie pratiquement sans condition. Et cette loi a été votée, a été débattue, et les députés ont commencé à voter son article 1, qui est passé d'ailleurs à une très forte majorité, et elle a été stoppée par une manœuvre parlementaire assez classique, qui est le dépôt de milliers d'amendements de la part de la droite, qui était opposée au texte. La discussion a été close, ils ont normalement une journée pour en débattre et pour voter le texte, sauf si le gouvernement décide de reprendre la proposition de loi, ce que, à l'époque, le gouvernement n'a pas fait. Donc cette proposition a été enterrée d'une certaine manière, mais le Conseil national d'éthique s'est dit il y a quand même le risque en France, sous la pression de l'opinion et avec une majorité parlementaire mal contrôlée, de voir un texte passer qui serait plus débattu dans le pays. Donc il faut quand même qu'on réfléchisse à ça et qu'on organise une réflexion. Et donc c'est peut-être un peu la justification positive de cet avis qui peut surprendre par l'effet de rupture, mais qui peut aussi rassurer sur cette idée que le comité s'est dit il faut engager un vrai débat national avant qu'on ait une opération aventureuse. C'est pas pour les défendre, mais c'est en tout cas une interprétation qui est donnée par son président le professeur Jean-François Delfrécy qui explique un peu pourquoi il y a eu cet avis. Qu'est-ce qu'il dit cet avis, pour tenir les deux ou trois minutes qui me restent? Il part d'un constat, il existe des cas, selon lui, qui ne sont actuellement pas pris en charge par la loi, notamment des patients atteints de maladies neurodégénératives, dont le pronostic vital n'est pas engagé à court terme et qui donc ne peuvent pas directement bénéficier de ce dispositif de la sédation profonde et continue jusqu'au décès, puisque leur pronostic de vie n'est pas tout de suite engagé. Et il constate aussi qu'il y a une demande d'euthanasie de la part de certains patients qui peuvent bénéficier de soins palliatifs, mais qui en ont assez, et qui répètent cette demande d'euthanasie de manière répétée, volontaire, persistante, j'allais dire, et que ces cas-là aussi, la loi n'arrive pas à les régler. Donc il dit, il faut réfléchir à ces cas. Ils sont peu nombreux, c'est des cas exceptionnels, quelques milliers sans doute en France, mais qui posent problème aujourd'hui, et il faut réfléchir. Donc sa proposition d'une aide médicale à mourir qui prendrait la forme d'un suicide assisté auquel pourraient avoir accès sous condition les patients qui le demandent, qui seront atteints d'une maladie incurable, dont les souffrances physiques et morales seraient réfractaires et dont le processus vital serait engagé non plus à court terme, mais à moyen terme. Et dans la discussion éthique, il dit, cette proposition-là, on l'a fait parce qu'il y a dans le débat éthique toujours une tension. Vous avez dû examiner peut-être lors de la première séance avec la philosophe Agatha Zielinski, une tension entre le désir d'autonomie des individus, une liberté à laquelle on aspire, qui est celui formulé de le choix de pouvoir décider par soi-même, et puis une tension avec une autre valeur qui est celle de la nécessaire solidarité avec les plus fragiles dans la société. Et le comité dit, nous, on pense qu'il peut y avoir un équilibre à trouver entre cette demande de liberté, cette demande de pouvoir choisir et cette nécessaire solidarité. On peut peut-être se retrouver autour de cette notion de suicide assisté, à condition évidemment, disent-ils, qu'on développe les soins palliatifs et qu'il y ait un débat national autour de ça, une convention citoyenne qui s'organise et un débat à faire entre toutes les parties prenantes. Je pense qu'on peut peut-être s'arrêter là juste pour dire la notion de suicide assisté, la notion d'euthanasie, je pense que vous l'avez déjà vu, mais peut-être qu'on pourra en reparler tout à l'heure avec vous. Et puis dire qu'il y a des pays qui ont déjà légalisé ces pratiques. Si on regarde sur la planète, un petit nombre de pays malgré tout. On entend souvent la France est en retard, etc. D'abord, il n'y a pas de retard en la matière, mais il n'y a pas un mouvement général de pays qui serait massivement converti à l'euthanasie au suicide assisté, mais il y en a un certain nombre. Je les rappelle, le premier à sauter le pas, ça a été les Pays-Bas en 2001, puis la Belgique en 2002, le Luxembourg en 2009, le Canada en 2016, 5 États australiens entre 2017 et 2019, la Nouvelle-Zélande 2019 également, et l'Espagne tout récemment en 2021 dans un processus un peu accéléré. Et puis, ça c'est pour l'euthanasie et suicide assisté. Ces pays-là légalisent ou légitiment les deux. Et puis il y a la Suisse et une dizaine d'États américains qui ont légalisé, autorisé le... Alors, je dis légalisé, non. La Suisse, ce n'est pas tout à fait légalisé. Disons qu'ils l'autorisent par défaut, le suicide assisté. Et une dizaine d'États américains, dont un, l'Oregon, qui a un peu le modèle qui sert de référence au Comité consultatif national d'éthique. Le système, c'est un malade qui aurait les conditions que j'ai citées tout à l'heure, irait voir un médecin, puis un autre médecin, et sur deux avis médicaux, se verrait prescrire un produit létal, libre à lui ensuite de le prendre ou de ne pas le prendre, La préférence du CCNE pour ce système-là, c'est que il laisse une part de liberté aux candidats au suicide assisté pour ne pas prendre le médicament. C'est le système qui organise le plus de retraits de décisions de la part des candidats au suicide assisté. Voilà, j'espère, Marie-Christine, que j'ai tenu à peu près le champ et que je ne vous ai pas oublié. La petite note qui détaille aussi ce que sont, non pas, enfin oui, qui détaille ce que sont les soins palliatifs, mais qui détaille surtout, enfin qui dresse une sorte de panorama de où est-ce qu'on en est du développement de ces soins, vous pourrez donc l'obtenir soit à la fin, donc c'est déjà prêt, comme ça, ça vous permettra de vous imprégner un petit peu plus, parce que j'ai essayé d'avoir peut-être un flou trop rapide. Monsieur, vous aviez une question.
Oui. Dans les différents organismes que vous avez cités, comité d'éthique, convention et autres, hein, quelle est l'importance des cultes, notamment chrétiens ?
On peut noter ça et on peut reprendre avec l'ensemble des questions si ça ne vous en est pas.
Après, la réponse peut être assez rapide. Hein, je l'ai dit, le comité consultatif national d'éthique, il y a des représentants des cultes qui peuvent être membres de cette instance. À la convention, il peut y avoir des chrétiens qui ont été désignés. Des catholiques, je racontais à Marie-Christine que, en discutant avec certains des conventionnels, je me présente, je dis je travaille à la croix. Certains m'ont dit ah ben moi je lis la croix ou je lis d'autres titres catholiques, je regarde Cathéo. Donc il y en a. Combien je ne sais pas, on ne peut pas tout de suite les reconnaître, mais il y en a. si, parce que dans les prises de parole, c'est ensuite assez facile de voir où chacun se situe. Mais ça vient de démarrer, cette convention, donc il faut attendre un peu. Mais voilà, officiellement, donc, CCNE, il y a des représentants des cultes. À la convention, il y a des chrétiens ou des représentants d'autres religions, d'ailleurs, hein, dans cette convention, puisqu'on est censé représenter la population. Et le week-end à venir, les représentants des cultes seront auditionnés par les citoyens sur une journée. On appelle nos trois intervenantes pour une table ronde, si vous voulez prendre place. Alors, on poursuit donc avec cette table ronde, avec nos trois intervenantes. Alors d'abord, le docteur Isabelle, c'est comme ça qu'on vous appelle à la maison Jeanne Garnier. Toutes les trois travaillent à la maison médicale Jeanne Garnier, que vous avez eu, pour ceux qui étaient là, la deuxième séance de ce cycle. Il y avait eu ce film « Les yeux ouverts » qui vous a présenté un peu l'activité l'histoire et l'engagement de tout personnel, soignant, bénévole, aumônerie à la maison Jeanne Garnier. Là, on a trois représentantes, un médecin, donc Isabelle Arbaret, une bénévole de l'association accompagnée ici et maintenant, Marianne Lépine. Vous êtes retraitée de l'enseignement en lettres classiques. Vous étiez en collège et en lycée, et puis votre maman, vous m'avez dit, est décédée à Jeanne Garnier le soir de la Noël 2001. C'est comme ça que vous avez mieux connu cette belle maison, et vous êtes désormais accompagnante bénévole depuis non pas 40 ans, mais 9 ans. Hein. Et puis avec nous également Myriam Caquino, vous êtes bénévole à l'aumônerie de la maison médicale Jeanne Garnier. Bon, vous avez eu un engagement, j'allais dire, de toute une vie, hein, je veux pas, vous m'avez raconté de toute une vie au sein de l'Église, longtemps auprès des jeunes, et puis là aussi, le décès de votre papa en 2007 vous a fait rejoindre le milieu médical, d'abord comme aumônier au CHU, donc Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux, et depuis un an, puisque vous êtes... vous avez déménagé à Paris comme bénévole d'aumônerie à la maison Jeanne Garnier, qui est toute proche, hein, de, c'est pratiquement notre maison voisine, enfin votre maison voisine. On va procéder comme ça, si vous le permettez. Je ne sais pas qui est-ce qui va commencer, mais pendant une dizaine de minutes, et là aussi, Marie-Christine, si tu veux m'aider à compter le temps, chacune de vous va raconter un peu votre engagement à la maison Jeanne Garnier, vous, votre... votre métier de médecin en soins palliatifs, votre travail de bénévole accompagnante, et puis votre travail à l'aumônerie. Et puis ensuite, après, on aura un échange, j'aurai peut-être quelques questions, et vous aussi, certainement, beaucoup de questions à poser sur qu'est-ce que c'est que les soins palliatifs, quelle est la spécificité du travail d'accompagnante, et j'allais dire, le rôle d'une aumônerie dans un lieu où on finit sa vie. Pour les patients, mais aussi pour les familles, et peut-être pour les personnels soignants. Est-ce que vous seriez prêt, docteur Isabelle, donc, à commencer à nous raconter un peu votre... On ne s'est pas vu avant, donc peut-être nous dire depuis combien de temps vous avez rejoint la maison Jeanne Garnier, puis votre travail auprès de, au chevet des patients.
Bonsoir à tous. Excusez-moi, je garde le masque parce qu'actuellement il y a des cas de Covid, hein, parmi nos patients et même parmi les soignants. Donc voilà, je ne voudrais pas faire un cluster ici. Merci beaucoup, mon père et la paroisse, pour votre invitation. Je suis très honorée de pouvoir représenter la maison médicale Jeanne Garnier, où je travaille depuis maintenant 2010. J'y suis arrivée en tant qu'interne. J'ai terminé ma formation en médecine générale. Et j'ai été très déçue de la prise en charge du patient à l'hôpital sur le plan du traitement de la douleur et encore plus au niveau de la fin de vie, donc, qui est très expéditive et souvent vue par mes confrères et consoeurs comme un échec. Alors que ça fait partie entièrement de la vie et que ce temps-là est extrêmement important et précieux. Et donc voilà, je suis venue, j'ai toqué à la porte de la maison médicale Jeanne Garnier pour y faire un stage avant de devenir complètement médecin et d'y passer ma thèse. Et j'ai eu la chance d'avoir un poste en tant qu'interne et je suis tombée dans la marmite parce que j'y ai retrouvé une équipe, une réelle équipe soignante et non pas malheureusement des problématiques hiérarchiques. Hein, très souvent à l'hôpital, on parle plus d'une hiérarchie qu'autre chose. Et l'équipe soignante n'est que, qu'à l'écrit, hein, les gens travaillent les uns côté des autres, mais on n'est pas dans une réelle interdisciplinarité, alors que c'est extrêmement important. Voilà, parce qu'on considère nos patients, et j'aime beaucoup cette métaphore, comme des diamants. C'est-à-dire que le patient nous révèle à chacun une de ses facettes, qui peut être diamétralement opposées, et donc ce sont deux vérités, deux réalités différentes, mais qui coexistent. Et c'est pour ça que c'est très important qu'en équipe, on puisse se retrouver et comprendre qu'est-ce que le patient nous offre et permet d'observer et de mieux pouvoir l'appréhender et donc aussi lui proposer nos soins. Alors, donc voilà, donc depuis 2010, je suis là-bas la spécificité, déjà vous dire qu'est-ce que sont les soins palliatifs, ce sont des soins dits actifs, dans le sens où nous prenons soin, voilà, nous faisons des soins auprès des patients et nous traitons leurs symptômes. Et les soins palliatifs sont pour tous, soit les enfants, parce que malheureusement aussi les enfants peuvent être atteints de maladies graves et incurables. Et donc nous prenons en charge tous les symptômes donc, qui concernent soit des souffrances dites physiques, psychiques ou morales, spirituelles. Et donc on essaye de faire en interdisciplinarité, c'est-à-dire avec beaucoup de professionnels de santé, une prise en charge dite globale, à la fois du patient et de son entourage. Nous réalisons donc de la clinique, nous réalisons aussi de la recherche et de la formation, qui sont les trois piliers normalement que doit tout faire en médecine. Nous devons aussi faire attention, et c'est pour ça que les bénévoles sont essentiels, ils font partie de la prise en charge aussi des soins palliatifs, les besoins spirituels évidemment, et nous devons aussi prendre en charge, je veux dire, l'équipe. Moi, je fais aussi attention, évidemment, aux patients, aux familles et à mon équipe, parce que c'est quand même une atmosphère assez lourde, hein, donc, qui n'est pas toujours facile à vivre dans un quotidien répétitif de prise en charge avec des patients quand même qui restent douloureux, de deuil répétitif. Et donc, pour aller sur la durée, il faut faire très attention aussi aux soignants et pouvoir aussi les accompagner et les aider. D'où des groupes de parole entre soignants. La prise en charge, c'est surtout de l'accompagnement. L'accompagnement, qu'est-ce que c'est? C'est de rejoindre le patient là où il en est. C'est-à-dire que quand un patient arrive à la maison médicale Jeanne Garnier, en général, nous avons reçu avant tout une demande qui est partagée et qui est commune à l'ensemble des unités de soins palliatifs d'Île-de-France, qui nous permet de savoir un petit peu au niveau administratif, vaguement un peu son entourage aussi, de savoir au niveau médical la pathologie dont il est atteint, les médications actuelles, et de savoir un petit peu la charge en soins, pour savoir après pour nous, dans quelle unité, pour pouvoir répartir un petit peu les charges en soins des patients. Donc on a déjà une petite vue, une vision du patient avant qu'il n'arrive, et donc on peut l'accueillir un petit peu mieux aussi. Et donc nous accueillons le patient souvent accompagné de ses proches, qui très souvent voilà, arrivent soit du domicile, ou dans une, parfois dans une prise en charge encore active, et qui parfois à notre arrivée signe un état de prise en charge palliative. Ça évolue petit à petit, mais en tout cas voilà, ils arrivent, et on ne sait pas forcément ce dont le patient est au courant, ce qu'il sait, ce qu'il a compris de la situation, et encore moins dans le, quel est le lieu dans lequel il arrive. Donc évidemment, c'est, d'abord c'est de l'accueil et surtout de l'écoute, et de prendre ce temps de s'adapter aussi aux besoins des patients. Parfois les patients arrivent extrêmement fatigués, ce n'est pas le moment. Et donc on n'est pas là pour leur donner des informations qu'ils ne peuvent pas recevoir et de leur dire, bah voilà, vous êtes en USP, c'est une prise en charge de fin de vie. A priori, vous en avez pour 4 jours. Donc voilà, c'est absolument pas comme ça que ça se passe. Et donc l'accompagnement, c'est-à-dire que je rejoins le malade là où il est, et qu'on va sur son chemin avec lui et pas sur notre chemin. Nous, voilà, nous n'allons pas décider ce qui est bien pour lui, nous n'allons pas décider ce qui est mauvais pour lui. On va surtout essayer de se renseigner et de lui laisser la parole libre. En effet, la médecine a objectivé beaucoup les patients. La T2A, comme vous savez, donc c'est la tarification à l'activité. Et donc elle a souvent, l'hôpital, moi c'est ce que j'ai regretté, c'est que je soignais des pyélonéphrites, je soignais des... que soigner des maladies, on se cache hein, derrière ça, donc derrière le côté technique de la médecine. Et du coup, ben, ça n'avait pas de sens, c'est-à-dire qu'à partir d'un moment, on remplissait une dernière ligne d'une ordonnance très remplie, et puis on envoyait à domicile, et puis voilà, c'était terminé. Donc alors que là, voilà, on n'est pas du tout là-dedans, on prend en charge une personne atteinte d'une maladie et qui en est, un, voilà, a priori, un stade évolué, avec toute sa famille et son entourage autour. Voilà, il est très important de prendre en charge évidemment les proches et de respecter aussi ce qui se passe parfois dans un parcours hospitalier en médecine qui peut être extrêmement violent. Vous accompagnez votre proche, vous rencontrez l'oncologue quand vous avez la chance quelques minutes de temps en temps, qui répond aux questions du patient, pas aux vôtres, et vous êtes souvent très gêné de poser des questions qui fâchent face à votre proche, donc parfois même les proches ne sont pas toujours aussi bien informés que ça de l'évolutivité du stade où en sont le patient, les patients. Donc voilà, donc c'est important un petit peu de faire le point, d'accueillir et de prendre vraiment ce temps-là. Très souvent, on me remercie d'avoir pris autant de temps avec eux à l'entrée pour leur expliquer voilà, souvent le parcours, pourquoi on arrive là, tout en sachant que je ne suis pas oncologue ou cancérologue, mais de leur dire voilà, et pouvoir un petit peu expliquer, mettre des graines sur la suite. Et de dire, ben voilà, il va pouvoir se passer ça, voici quelle va être notre prise en charge, voilà ce que l'on peut proposer. Et donc d'expliquer. Moi je dis souvent, on ne soigne pas une personne, on va dire, bien portante comme vous et moi, qui a un coup dur, qu'une personne qui a une polypathologie, ou en tout cas une maladie évolutive et très évoluée déjà, comme la plupart de nos patients sont atteints de cancer polymétastatique, qui... Voilà, c'est-à-dire qu'un patient qui est très altéré, a un corps extrêmement altéré et qui voilà, ne peut pas recevoir des médications comme vous et moi qui a un coup dur, où ben voilà, il va falloir passer ce coup dur. Donc voilà, c'est toute une réflexion et ce petit comment dire, pas de côté, il faut savoir l'expliquer aux familles pour qu'ils puissent voilà, comprendre pourquoi on retire certains traitements, pourquoi on en met d'autres. On a une grande peur en France des opioïdes. Les traitements antalgiques sont extrêmement... pas toujours bien compris et encore moins bien explicité l'éducation thérapeutique manque. Et même mes confrères, parfois, en ont peur et ne savent pas forcément les utiliser à bon escient. C'est beaucoup de temps, d'explications. Et puis, on n'est pas que là, parce que parfois on pourrait croire que les soins palliatifs, c'est savoir tenir la main du patient. Non, c'est pas que ça. On a des infirmières qui se doivent d'être extrêmement compétentes sur le plan technique, justement, parce que nous réalisons des traitements par opioïdes, donc il ne faut pas se tromper dans les dosages, bien sûr. Donc il y a aussi parfois, malheureusement, des détresses respiratoires, des détresses hémorragiques, des pansements extrêmement lourds. Il faut savoir être réactive et faire les bons gestes au bon moment. Donc voilà, c'est des soignants qui sont extrêmement compétents sur le plan technique et sur le plan humain. Ce ne sont pas des donneurs de médicaments. Voilà, c'est des gens qui savent regarder la personne avec des yeux dans leur entièreté. Voilà. Que vous dire de plus, parce que je pourrais dire en biais.
On aura certainement des questions aussi tout à l'heure, mais déjà une première question de ma part. Qu'est-ce qui fait, parce qu'il faudrait peut-être le redire, les soins palliatifs, ce n'est pas juste à l'hôpital ou dans une unité de soins palliatifs comme la vôtre. Les soins palliatifs, peut-être rappeler que ça peut être dispensé à la maison ou en EHPAD. Et qu'est-ce qui fait qu'un patient arrive à la maison de Jeanne Gardier, donc vous l'avez rappelé, une unité de soins palliatifs. Qu'est-ce qui fait qu'un patient va quitter son domicile et va être hospitalisé chez vous?
Alors, en effet, les soins palliatifs peuvent être exercés partout. Dans les hôpitaux, il y a ce qu'on appelle maintenant des LISP, encore un acronyme, donc des lits identifiés soins palliatifs, c'est-à-dire que dans des services, certains services peuvent accepter deux lits où, quand ils auront des patients qui sont passés en phase palliative, ils seront mis dans ces lits-là et normalement, il y a un cahier des charges qui va avec, c'est-à-dire que ils sont censés, les soignants de ce service sont censés être mieux formés pour savoir mieux accompagner ces patients. Alors, la réalité, parfois, est malheureusement un peu tout autre. Il y a aussi des équipes mobiles de soins palliatifs que l'on peut voir justement dans les hôpitaux, dans différentes structures maintenant médico-sociales. Il y a des équipes mobiles de soins palliatifs qui vont parfois aussi dans les EHPAD. Et sinon, il y a ce qu'on appelle aussi les HAD, donc les hospitalisations à domicile, l'hôpital qui vient avec tout son matériel et ses soignants ponctuellement à la maison, mais qui peut avoir une spécificité palliative. Et donc ça, c'est toutes les différentes structures. Et les USP, qui sont des unités de soins palliatifs, la différence, c'est que justement, donc, il y a un plus grand nombre de soignants, et donc nous devons accueillir que les patients qui ont des prises en charge les plus complexes. C'est-à-dire que si vous êtes en fin de vie, mais que les symptômes sont relativement bien contrôlés, vous n'avez pas à venir à Jeanne Gardier. Fin de vie ne signifie pas forcément arriver en USP. Par contre, si c'est une fin de vie à domicile et que les dents sont complètement dépassées, paniquées, évidemment, voilà, il manque une sécurité pour les uns et les autres, il faut venir. S'il y a une complexité dans la prise en charge de la douleur, il faut savoir venir, ou d'autres symptômes, il faut savoir venir. Les gens qui réitèrent des demandes d'euthanasie ou de mourir, pareil, il faut savoir pouvoir les accueillir, parce que ça s'agit d'une souffrance morale importante. Donc on essaye de prendre en charge les cas les plus complexes et compliqués qui nécessitent une équipe soignante très importante. Il faut savoir qu'à Jeanne Gardier, alors on est très bien doté, et j'espère que ça va continuer à être comme ça, parce que c'est vraiment grâce aux soignants, et ça c'est que nous avons la réputation que nous avons actuellement, c'est grâce à eux, à savoir que pour une unité de 12 à 13 patients, au mieux, normalement, nous avons 3 binômes infirmiers et soignants. Ça veut dire, alors que d'habitude, pour ce même nombre de patients, vous n'avez qu'un seul binôme. Voilà. Et pour une unité, on va dire, de médecine, enfin, une unité d'aigu. Voilà. Donc, on est bien noté, mais ça nous permet de faire des toilettes à 4 mains, de prendre le temps d'aider et d'accompagner des gens qui sont soit déjà extrêmement dépendants au niveau fonctionnel, c'est-à-dire qu'il faut aider à manger, enfin voilà, pour tous les actes de la vie quotidienne. Voilà, donc c'est pour ça que c'est très important de pouvoir distinguer, voilà, en effet, vous avez raison, créer une USP.
Bon, si ce n'est pas encore totalement clair, on reviendra avec des questions là-dessus, si vous avez la gentillesse de passer le micro à votre voisine Marianne Lépine. Donc vous êtes bénévole de l'association Accompagner ici et maintenant. Vous me disiez tout à l'heure près de 90 bénévoles qui sont à la maison Jeanne Gardier. C'est quand même considérable.
Expliquez-nous un peu ce qu'est l'association Accompagner ici et maintenant et quel est le rôle peut-être spécifique de l'accompagnant par rapport aux équipes soignantes. Là, on a un médecin, mais les équipes soignantes, vous l'avez rappelé, c'est des infirmières, c'est des aides-soignantes. Le rôle spécifique de l'accompagnant.
Alors, je vais vous parler du rôle spécifique de l'accompagnement en m'appuyant sur mon vécu là-bas en tant que bénévole à la maison médicale Jacques Vernier. Donc, voilà, je pense qu'avec des exemples, ça vous sera peut-être plus facile de comprendre. Je voulais d'abord vous dire que les raisons pour lesquelles je suis devenue... d'abord, je ne vous ai pas dit bonsoir, pardon. Les raisons pour lesquelles je suis devenue bénévole, c'est parce que, comme beaucoup d'hommes et de femmes, j'appréhendais, bien sûr, j'appréhende d'ailleurs, je peux le laisser au présent, les moments du dernier passage et que je cherchais, en entrant à la maison médicale, à rendre la mort un peu plus familière, apprendre à cheminer au fur et à mesure des années, plus régulièrement avec cette idée, avec cette réalité, pardon, de notre finitude. Aussi parce que j'aime les échanges, j'aime les rencontres, et que je crois que dans ces derniers moments, quand les malades se retrouvent dans ces derniers moments, ou même les familles, je reviendrai là-dessus, c'est vraiment le temps de la rencontre authentique. Il n'y a plus de place pour le paraître, comme on peut être évidemment dans notre vie sociale, on est vraiment dans l'être. Et là, je trouve que c'est une grande richesse. Alors souvent, j'ai des réflexions du genre... je t'admire, ça doit être glauque, ça doit être triste, ou bien est-ce que c'est pas trop dur? Même une fois, quelqu'un m'a dit, moi je pourrais pas, je suis sensible. Alors ce que je voulais vous dire, c'est que c'est un cadeau d'humanité d'être là-bas. C'est un cadeau d'humanité qu'offrent ces malades, c'est une confiance, c'est un témoignage, et moi qui m'aide à vivre en tout cas. Alors, dans le cadre général du bénévole, nous ne sommes pas seuls. J'appartiens donc à cette association. Dans cette association, les bénévoles sont répartis en équipes suivant le jour où on se rend à la maison médicale. Et donc, il y a des équipes du matin. Normalement, 6 bénévoles le matin, 6 bénévoles l'après-midi. C'est 6, c'est le nombre de services qu'il y a à la maison médicale. Et il y a une réunion au milieu de la journée, une réunion d'équipe, et de toute façon, on peut partager ce qu'on a vécu. Il y a aussi un responsable d'équipe, éventuellement, qu'on peut venir retrouver dans la salle des bénévoles si on a vécu quelque chose de difficile. Il faut savoir aussi qu'en tant que bénévole, on n'était pas seul, donc j'ai parlé d'équipe. On a aussi des groupes de parole qui sont uniquement pour les bénévoles. On n'est pas mêlé, bien sûr, au groupe de parole des soignants. Et puis surtout, bien sûr, on a les soignants, que ce soit les médecins, les infirmiers ou bien les aides-soignants, avec lesquels il y a un échange constant. Et puis au fur et à mesure, on a aussi les formations. Tous les ans, on a une formation. Déjà au démarrage quand on commence, et ensuite au long des années. Alors, ce qui compte, ce qui est important pour moi, pour être bénévole là-bas, c'est simplement d'être là. Simplement d'être là, d'écouter. C'est venir sans projet précis. C'est être disponible pour tout ce qui peut subvenir dans ces rencontres. On est vraiment, moi j'ai le sentiment d'être vraiment pendant un temps, quand je suis là-bas, en dehors de tout ce qui est, de toutes mes préoccupations, je les ai oubliées, elles sont dehors, on n'y pense plus du tout. On est vraiment là, disponible, prêt pour les uns et pour les autres. On est aussi, les rencontres, on ne les a pas seulement avec les malades, on les a aussi avec les familles, avec les amis. Je vous en parlerai peut-être tout à l'heure après les rencontres avec les malades. Alors moi, je vais vous parler donc des rencontres avec les malades. Je vais essayer de m'appuyer sur des exemples pour que vous compreniez. Et puis, je suis contente de vous partager certaines choses que j'ai vécues aussi. Alors, les rencontres avec les malades, elles commencent dans 95% des cas dans les chambres, puisque les malades, en principe, sont dans leurs chambres. On a évidemment quelques-uns, quelquefois, qui se promènent dans les couloirs quand ils sont encore vaillants, mais c'est quand même assez rare. Donc, elles commencent dans l'entrée dans la chambre. Pour moi, au bout de ces 9 années de bénévolat, l'entrée dans la chambre reste toujours un moment de grande émotion. J'allais dire d'appréhension aussi, quelque part. Pourquoi entrer là? Est-ce que c'est vraiment le moment? Est-ce que je suis bien prête pour être disponible pour ce malade? Parce que est-ce que ce malade a envie d'une présence? Est-ce qu'il est trop fatigué pour cela? Est-ce que je ne suis pas inopportune? Ça tourne dans ma tête souvent
avant de frapper une porte de chambre. Il faut savoir que nous sommes les seuls, les bénévoles à la maison médicale Jeanne Garnier, à qui les malades peuvent dire non. Ils ne peuvent pas dire non aux soignants qui viennent pour les soigner, évidemment. Ils ne peuvent pas dire non à leur famille qui vient les voir, ni aux amis qui viennent les voir. Et je crois qu'en principe, même, je ne redirai jamais rien, mais il me semble qu'à l'aumônerie, normalement, l'aumônerie, on la réclame. Donc, nous, on arrive, ben, évidemment, là, il y a un couple malade et la possibilité de dire non. Alors là, ce qu'on n'aime pas beaucoup, bien sûr, c'est quand le malade nous dit que c'est comme vous voulez. Alors ça, c'est toujours compliqué pour nous, parce qu'on se dit, il faut arriver à saisir, est-ce que la personne dit ça pour ne pas nous contrarier ou pour... Voilà, donc ça c'est vraiment la réponse qu'on n'aime pas. Une fois, j'ai une femme qui m'a dit, je suis entrée, elle m'a dit, est-ce qu'on se connaît déjà? Je lui ai dit, non, je vous ai jamais rencontrée. Alors elle m'a dit, maintenant, je suis fatiguée, mais c'était fatiguée de la vie qu'elle m'a dit. Alors je ne veux pas commencer une nouvelle rencontre. Et ben, j'ai trouvé ça formidable ce qu'elle m'a dit. J'ai trouvé que vraiment elle avait compris, parce que, enfin, elle me disait combien la rencontre pour elle était importante, et qu'elle regrettait, mais c'était plus possible. Mais vraiment, pour moi, ça a été quelque chose d'extrêmement fort. Alors, je voudrais vous donner donc les exemples. Vous avez des malades qui... alors, vous avez des malades, quand la porte est ouverte, il y a des malades qui aiment bien qu'on leur laisse la porte grande ouverte, qui vous appellent de loin. Ainsi, il y a quelques années, je me souviens, je passais dans le grand de la porte. Je ne sais plus pourquoi, je ne me rappelle plus la raison pour laquelle je passais devant sa porte. Et il m'a hélé, c'est un monsieur assez âgé qui m'a hélé de loin, qui a insisté pour que je vienne m'asseoir. Et en fait, cet homme, je ne vous raconte pas tout, mais la vraie raison, c'est qu'il voulait absolument parler de sa vie. On va revenir là-dessus parce qu'en fin de vie, beaucoup de malades aiment raconter leur vie. Et cet homme-là avait été déporté avec toute sa famille. À l'âge de 15 ans, je crois, sa mère, son frère et sa sœur avaient été envoyés directement dans les fours crématoires. Et lui était resté avec son père. Il m'avait raconté, bien sûr, tout son temps en camp de concentration. Il fallait qu'il en reparle. D'ailleurs, je crois que quand il est décédé, il était dans une espèce d'excitation en disant « Il y a combien de morts, combien de sang ?» Enfin, c'était vraiment, il était habité par ça. Il fallait absolument qu'il puisse encore en reparler à la fin de sa vie. Sinon, y a aussi des malades. Alors ça, il s'agit de malades. Il y a des malades qui peuvent. Je vais vous donner les exemples. D'abord, des malades qui peuvent parler, parce que vous avez des malades qui ne peuvent plus parler. Donc, dans les malades qui peuvent parler, il n'y a pas si longtemps, une femme assez âgée m'a dit une chose qui était assez belle. Elle m'a parlé beaucoup de sa vie, mais elle m'a dit, elle souffrait toujours. Elle avait au-delà de 90 ans et elle souffrait toujours de ce que l'avait perdu sa mère à l'âge de 15 ans, parce que sa mère s'était suicidée. Et elle m'avait dit, vous savez, quand je suis arrivée dans cette chambre, il y avait une douceur, il y avait les voilages de la fenêtre qui remuaient doucement à l'air du soir. Et j'ai dit, maman, tu es là, et ben, je crois que je te pardonne enfin. J'ai trouvé vraiment là, vous savez, quand vous avez des réflexions comme celle-là, vous ne pouvez pas rester indifférent. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a vraiment des cadeaux d'humanité assez extraordinaires. Je pense aussi, alors il y a aussi des malades, dans les malades qui peuvent parler, vous en avez qui sont confus, parce qu'ils sont âgés, parce qu'ils ont eu aussi tellement de traitements, puis qu'ils lâchent un peu prise en arrivant en soins palliatifs. Alors ça, c'est une petite histoire qui m'amuse, parce que pour montrer qu'il y a des moments qui sont quand même drôles, cette personne, elle me dit, il faut absolument que ma fille remporte le livre, puis elle n'arrêtait pas de me parler de ce livre. Je voyais bien, alors je disais, ah oui, ce livre, oui, c'est important, il faut que ma fille vienne, il ne peut pas rester là, ce livre. Bon. Jusqu'à ce qu'elle finisse par me dire, c'est le livre du... c'est le livre du monsieur de carreau. Ben, je me suis dit, ça doit être une histoire de cartes. Ah, je dis, ah oui, c'est un jeu de cartes. Alors elle me dit, ben, le bridge, c'est un jeu de cartes, elle me dit. Et à ce moment-là, elle a cessé d'être confuse. Moi, j'aime beaucoup ces moments-là, parce que quelquefois, brusquement, ils retrouvent, parce qu'on leur parle d'un mot, de quelque chose qui est tellement important pour eux. Et elle me dit, elle me dit, vous jouez au bridge. Je lui dis, non, je ne veux pas. Il faut jouer au bridge. Je lui dis, non, je n'ai pas envie. Mais si, il faut jouer au bridge. Alors, je lui dis, je ne parle jamais de moi, mais je dis, vous n'allez pas faire comme mon mari qui veut que je joue au bridge. Moi, ça ne m'intéresse pas. Et bien, elle me dit, je vais vous dire. Hein. Bien, votre mari, il joue au bridge. Hein, et puis, dans les tournois, il va rencontrer une femme, une jeune, elle me dit, et une jolie. Ah ben je vous remercie. Voilà, donc vous voyez, des moments comme ça, ça m'a amusé, c'est drôle. Et puis, il y a l'exemple aussi de ces malades qui sont plus jeunes. Là, je vous ai parlé des exemples de personnes assez âgées, de gens plus jeunes. Je me rappelle très bien, c'était le 1er janvier, je ne sais plus de quelle année. Et c'était un monsieur qui avait 55 ans, 60 ans, et qui venait d'après ce que j'ai compris, qui avait une tumeur qui s'était déclarée l'été précédent, et il était vraiment, vraiment en fin de vie. Et là, il voulait encore être dans la maîtrise des différentes choses, enfin de ce qu'il pouvait maîtriser, ce qu'il pensait pouvoir maîtriser. Donc, il m'a expliqué comment il avait préparé toute la célébration de son enterrement, et il m'a expliqué aussi comment il se faisait énormément de soucis pour sa femme, parce qu'elle ne savait pas très bien comment gérer les comptes en banque et gérer tous les papiers, les histoires des impôts et tout ça. Et je sentais énormément de détresse chez cet homme à l'idée que toute cette partie qu'il avait toujours gérée, maintenant il fallait qu'il l'abandonne et qu'il s'inquiétait pour sa femme. Je pense aussi à un malade que j'avais retrouvé en pleurs dans sa chambre et qui me disait « qu'est-ce que je fais là ? J'aurais bien me fait d'aller en Suisse pour ne pas peser sur ma famille. » Il pleurait énormément. Et je me disais « qu'est-ce qu'on peut faire pour le soulager ?» Puis à un moment donné, il a évoqué une histoire de fleurs et je me suis aperçue que le petit bouquet de fleurs qu'on apporte au malade, il était complètement fané, celui qui avait dans sa chambre. Alors, je lui ai dit, ah oui, ces fleurs, regardez les autres, elles sont fanées, peut-être que je peux aller vous en rechercher un autre bouquet. Et quand je suis revenue, à ce moment-là, il était beaucoup mieux et il s'est mis à me parler de tas d'autres choses. Et pendant un temps, il était apaisé. Quand je l'ai quitté, je l'ai senti beaucoup plus en paix. Alors, dans ces cas-là, on se dit, bon, ben voilà, il y a eu quand même quelque chose qui a été partagé. Mais quelquefois aussi, ce sont des malades qui ne peuvent plus parler. Alors, ils ne peuvent plus parler, soit parce qu'ils sont déjà dans un état d'inconscience très avancé, ou bien parce qu'ils sont trop fatigués pour parler. Alors, je voudrais évoquer avec vous d'abord deux exemples de personnes... Enfin, oui, je vais vous évoquer que deux exemples, parce que je ne veux pas que ça soit trop long. Donc, deux exemples. Une femme qui, on me dit que c'était une femme, quand je suis arrivée, elle n'était pas très, très vêtue, elle avait un corps qui était... mais constellée de bleu, de plaies. Je pense qu'elle c'était toutes les perfusions qu'elle avait dû avoir autrefois à l'hôpital, la piqûre, je ne sais pas les raisons, Isabelle dirait, mais cette personne, elle était dans un état de très grande fatigue, et je me suis approchée d'elle, je voyais bien qu'elle ne pouvait pas parler, et on a vécu là des moments, je la regardais dans les yeux, je lui ai pris la main, et elle avait un regard absolument extraordinaire. Il passait dans son regard, je ne peux pas vous dire, on est resté comme ça, peut-être pendant un quart d'heure, en silence, toutes les deux, à se serrer la main, et encore c'est plus moi qui lui tenais vraiment la main, parce qu'elle, je ne sais même pas si elle aurait eu la force de prendre la mienne. Et quand j'ai été interrompue quand les soignants sont arrivés pour des soins, et je me souviens que j'ai dit à l'infirmière, mais elle est extraordinaire cette femme, elle m'a dit, oui, elle ne parle pas, mais les amis qui viennent la voir, ils ont l'air extraordinaires. Donc, vous voyez, c'est des moments, et cette femme, je n'arrive pas à l'oublier, alors qu'on n'a pas échangé un mot. Autre exemple aussi, et là c'est un exemple pour moi qui est très très fort, les soignants souvent nous demandent d'aller quand le malade est vraiment dans les derniers moments. Alors ils nous demandent d'aller auprès du malade pour pas que le malade soit seul, pour qu'on les prévienne au moment où on pense que le malade est en train vraiment de s'en aller. Et donc il m'avait demandé d'aller auprès d'une femme que je n'avais jamais vue, une femme de certain âge que j'avais jamais vue. Et donc j'entre dans la chambre, je me présente comme je fais toujours. La personne avait bien sûr les yeux fermés, puis je m'assois à côté d'elle, et je pensais qu'elle était vraiment dans la plus profonde inconscience. Puis elle a ouvert les yeux, doucement, elle a relevé ses paupières, et elle m'a dit, je sens que le Seigneur m'appelle. Et là, vraiment, ce jour-là, j'ai eu un coup. Et vraiment, je la remercie énormément, cette femme, elle est morte, je crois, quelques heures après. Et cette femme, pour moi, elle a vraiment un sens, je ne peux pas l'oublier. Voilà. Alors, il y a aussi le moment, je voulais vous dire un tout petit mot aussi sur le moment de la mort. Alors, bien sûr, les médecins, les soignants en voient beaucoup plus que nous. Moi, j'ai dû voir à peu près être là peut-être 5 fois auprès de personnes qui vraiment partaient devant moi. Mais je voudrais vous évoquer, parce que c'est un bel hommage que je rends aux soignants. J'ai aussi été très marquée, parce que je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne me rappelle plus exactement. C'était quelqu'un que, un malade que j'avais rencontré, un malade très âgé aussi, assez âgé. Il se trouve que c'était un... Parce qu'il m'avait demandé d'aller, enfin, on m'avait demandé d'aller lui acheter son journal. Alors, donc, une fois avant, c'était avant qu'il soit mort, bien sûr. Enfin, c'était avant qu'il soit aussi mal, bien sûr. Et donc, j'étais allée lui acheter son journal. Normalement, il ne voyait pas tellement les bénévoles. Et puis, il s'est mis à parler quand je suis revenue avec le journal. En fait, c'était quelqu'un qui était un ancien professeur de médecine. Et il a beaucoup évoqué sa relation avec ses patients à l'hôpital, etc. Bon, donc, peut-être que les soignants se rappelaient qu'ils le connaissaient, j'en sais rien. En tout cas, le jour où je suis arrivée, où j'étais bénévole, tout de suite, l'infirmière me dit, viens donc, je lui dis, monsieur X, là, il est en train de s'en aller, viens. Et on s'est retrouvés autour de son lit, il y avait un aide-soignant, il y avait, je crois, un stagiaire aide-soignant, il y avait une infirmière, il y avait le médecin, il y avait moi. Et ce monsieur est parti tout doucement, rendu son dernier souffle, tout doucement. Et moi, j'ai trouvé que le médecin était absolument extraordinaire. Il lui a dit, si vous voulez, alors qu'il le savait, on a vu qu'il était mort. Hein, et il lui a dit, monsieur machin, là, je vais vous ausculter. Voilà. Et, ben, et il lui a dit après, ben voilà, vous êtes, voilà, vous dit au revoir. Vous êtes parti maintenant, vous dit au revoir. Et il continue à lui parler. Moi, j'ai trouvé que cet entourage humain était assez extraordinaire autour de ce malade.
Marianne, enfin, si vous permettez, on va. Je veux pas vous interrompre parce qu'il y a beaucoup d'émotions hein, dans votre oui. voix, dans vos histoires, mais on va aussi peut-être laisser à Myriam le moment de raconter aussi le travail de l'aumônerie. Puis peut-être vous pourrez revenir à travers les questions, mais. Merci hein, pour ces. Parce qu'on sent que c'est encore très très fort. On ne sait pas exactement quand ça se situe, mais on sent encore que c'est quelque chose qui vous a imprégné, mais aussi habité un mélange comme ça d'émotions, peut-être tristes et en même temps fortes. Myriam, alors, les accompagnants, ils tapent à la porte et puis on leur dit oui, on leur dit non. Vous. Comment ça se passe, votre approche des patients? Et on retournera aussi tout à l'heure, parce que vous avez parlé beaucoup au chevet des patients, mais il y a aussi des familles, peut-être, avec qui vous entrez en relation, toutes les deux, le personnel soignant aussi, d'ailleurs, mais chacun à son niveau. Le travail de la présence de l'aumônerie, comment ça se passe?
Alors, bonsoir. Moi, je suis toute jeune, puisque je suis là que depuis un an. Et merci Isabelle et Marianne parce que je vous sois en fait en confiance. Et ce sont des cadeaux de vous entendre. Alors en aumônerie, nous sommes 11, dont 9 bénévoles, à nous répartir sur chaque jour de la semaine, seuls ou en binôme. Qui sommes-nous? Il y a un prêtre, 2 sœurs, dont la responsable qui est Xavier, et des laïcs. La majorité de nous sommes d'âge mûr. Nous avons traversé quelques étapes de la vie en compagnonnage avec le Seigneur. Et ce compagnonnage, on est dans une paroisse, donc je suppose qu'il y a des échos en vous, et bien des places. Il envoie vers les autres pour qu'à leur tour, ils s'attachent à lui, au Seigneur, et pour être canal des grâces que le Seigneur donne en abondance à chaque instant. Et en fait, nous sommes de cela, missionnés et envoyés auprès des personnes malades, en soins palliatifs, de leurs familles, de leurs proches et auprès des soignants. Quel est notre équipement? Au-delà de notre être profond et de notre compagnonnage avec le Seigneur, nous suivons une formation de 8 mois pour entrer dans la culture de la maison Jeanne Garnier, pour se valider mutuellement et pour actualiser les aptitudes. Alors il y en a beaucoup des aptitudes, mais voilà, on les acquiert au fur et à mesure. Alors des aptitudes d'écoutant et en sachant bien manier la reformulation active, des aptitudes d'accompagnant de personnes malades au seuil de la vie ou des personnes en répit, et dans la discrétion, la confidentialité, la bienveillance, la délicatesse, la capacité à s'ajuster à l'autre, qui est le maître de la rencontre et qui nous conduit là où il veut nous mener. Des aptitudes à être en totalité présent à l'autre, sans projet, sans conseil, sans jugement, Vous voyez de quoi on est équipé. On est équipé pour apprendre à faire équipe avec les bénévoles, les soignants, en sachant passer le relais sans appropriation et en prenant soin des transmissions écrites que nous laissons pour les suivants à l'aumônerie. Les 8 mois de formation ne sont que le commencement de nombreux autres au sein de Jeanne Garnier qui sont communes aux soignants, qui sont communes aux bénévoles AIM et pour, par exemple, approfondir, affiner la spécificité des personnes en soins palliatifs dans leur globalité et en ce moment pour connaître l'enjeu et les problématiques du débat sur la fin de vie, par exemple. Ensuite, nous avons également des formations par la pastorale de la santé du diocèse de Paris. Et nous sommes, nous bénéficions d'un groupe de parole, vous en parliez, un groupe de parole mensuel pour s'alléger de ce qui peut être lourd. Nous sommes également très souvent nombreux, en tout cas, à être adhérents à la SFAP, dont a parlé, vous avez parlé tout à l'heure, qui nous propose aussi des formations et des soutiens. Voilà, et j'ai été tout à l'heure sur le site de la SFAP et je vous lis ce qui est marqué en premier. Mes derniers jours, je veux les vivre, je ne veux pas les compter. Bon. Voilà, qui rencontrons-nous ? Nous nous rendons auprès de personnes, de leur famille ou leurs proches, qui ont souhaité être visités par l'aumônerie. Soit ils viennent d'hôpitaux où ils ont déjà pris contact et ils avaient des liens importants avec l'aumônerie, par exemple l'hôpital Saint-Louis, l'hôpital Saint-Joseph, l'hôpital Cochin. Ou alors, le déclencheur en fait, pour les visites se fait par les soignants ou les bénévoles AIM qui repèrent des indices. Dans la chambre, de pratiques religieuses ou des indices sur la personne elle-même. Notre première visite est un contact qui, comme disait Marianne, qui confirme ou infirme la demande de la présence des personnes de l'aumônerie. Et nous, parce qu'ils peuvent dire non. Et nous, nous informons de ce qu'on peut vivre ensemble en laissant un flyer mémoire. Alors, des visites, bien sûr, par le bénévole ou le prêtre, des propositions d'Eucharistie, soit à la chapelle, 3 fois par semaine, avec le samedi à la messe anticipée du dimanche. Et les personnes sont amenées par les bénévoles AIM en déambulateur, en fauteuil roulant, en lit. Et ça, c'est superbe. Et soit ils peuvent recevoir l'Eucharistie chaque jour. Il y a des propositions de suivre la messe aussi depuis le canal interne. Il y a des propositions de vivre les sacrements de réconciliation et des malades par le prêtre, des propositions de passer à la chapelle autant qu'ils le souhaitent, parce que la chapelle, elle est lumineuse, elle est moderne, elle est fleurie, elle est spacieuse, elle est aux couleurs éclatantes, des vitraux éclairés jaune et bleu, et elle est habitée. On leur propose aussi une présence priante et aidante le jour de la prière du départ ou de l'adieu au visage au funérarium. Et ça, moi, je rentre. Voilà, on aura peut-être le temps, mais c'est extrêmement fort. Les ministres des autres cultes sont recherchés par nous à l'aumônerie à la demande des personnes. Alors, qu'est-ce qui se vit avec toutes ces personnes ? Eh bien, nous rencontrons une personne d'être à être. Sa famille ou ses proches, sans connaître la spécificité de sa maladie. Nous n'avons pas de transmission avec les soignants, contrairement aux bénévoles d'AIM. On cogne délicatement. La personne nous invite à poursuivre notre élan ou à remettre plus tard. Si c'est un oui, c'est que nous sommes attendus. Et déjà, notre passage dit l'importance que la personne a en cet instant. Nos sens sont en éveil pour recueillir tous les indices qui parlent de la personne, pour créer une proximité de connivence, d'écoute, pour créer un espace de partage de vie maintenant. Et Marianne vous en a fait beaucoup d'illustrations tout à l'heure. Et on va regarder par exemple les photos qui sont accrochées au mur, le livre ouvert que la personne tient entre ses mains, celui qui est en train de dessiner des sphères sur le bord de son lit. L'autre jour, la personne que je visitais était en train d'écouter une musique de jazz. Et j'ai ébauché quelques pas de danse. Et elle s'est mise Ça a animé son visage. Et elle a eu un sourire enjoué, elle ne peut plus parler, elle a la maladie de Charcot. Voilà. Il y a, par exemple, des moments de complicité où la personne n'était voilà, pas forcément très ouverte, mais on s'est aperçu qu'elle avait confondu son entrée. Elle pensait que c'était l'entrée, enfin, elle avait confondu l'entrée avec le dessert. Et du coup, eh ben, ça a ouvert la suite. Une autre fois, c'est une vierge lumineuse que les enfants ont apportée. Et je remarque cette vierge lumineuse, et ça a été un bonheur de cette femme qui disait qu'elle avait tellement été touchée de cette vierge qu'elle avait trouvé ses enfants pour elle. Et voilà. Et en fait, il suffit, ça se passe dans les quelques instants, les quelques secondes, et les choses, la rencontre peut se faire. La parole, les yeux, les mains peuvent alors se dire, se voir et se toucher. Et ça sera quoi? Ça sera des récits de vie. Où les personnes s'écoutent en fait parler par nos reformulations, notre écoute et notre formulation, et ça les incite à aller plus loin et encore plus loin dans le partage de leur chemin d'hier, de maintenant et de demain. Ça peut être des confidences, des regrets, des blessures, des peurs de souffrir. Ça peut être un lâcher prise de quelque chose qui pèse. Ça peut être l'attente partagée d'une visite qui est espérée. Ça peut être des questionnements sur l'après. Ça peut être le partage de dire: je suis prête, je suis en paix. Et ça me rappelle une personne qui me disait, je la voyais plusieurs fois, et elle répétait ça. Mais elle avait un visage qui ne correspondait pas avec ce qu'elle disait. Et au bout d'un certain temps, je lui ai dit, à la dernière visite, je lui ai dit, qu'est-ce que vous diriez de me faire un sourire? Et là, elle a fait un sourire qui a illuminé son visage. Et j'ai su après que les autres, eh bien, voilà, le sourire, il est resté longtemps sur son visage. Ça peut être des phrases d'émerveillement d'être en ce lieu. Ils disent souvent qu'ils sont encore mieux que dans un 5 étoiles ou au Koritz. Et parce qu'en se sachant pris en main jusqu'au bout par des soignants attentifs à soulager la douleur et la façon dont ils s'occupent d'eux. Ça peut être un émerveillement d'être encore en vie. Parce qu'il y a des personnes qui arrivent aux soins palliatifs et en fait pour eux c'est synonyme que c'est la fin. Et en fait ils sont encore en vie. Et je vois Valérie qui n'avait plus que la peau sur les os et qui n'a cessé de dire mais quel bonheur. Et en fait elle goûtait ces instants qui lui étaient donnés encore et elle n'a pas cessé de me faire du bien. Elle me disait mais... oh là là, vous avez des yeux bleus, oh là là, mais qu'est-ce que vous êtes belle. Mais les fleurs qui sont derrière moi, je vous demande d'en prendre une avant de sortir, vraiment. Et elle n'a pas cessé. Elle était dans un émerveillement. Voilà. Ça peut être l'émerveillement de l'art-thérapie que les malades suivent avec Marianne. Pas la Marianne qui est là, mais une autre Marianne. Et ils ont leur œuvre accrochée juste devant la personne. Et du coup, on en parle ensemble. Voilà. Et quand on sent que c'est ouvert, on va leur proposer de vivre ensemble un temps de prière. Soit une prière spontanée qui va rassembler tout ce qu'on vient de dire, tout ce qu'on vient de partager, et on le confie au Seigneur. Ou alors ce sont des extraits des prières des jours. Heureusement, on a prié en église et Magnificat, ça c'est super. C'est des psaumes, des prières que, voilà, qu'on sent qu'ils sont ajustés au moment qu'on a avec nous. Et alors on va toucher ensemble le mystère de la vie, le mystère de la mort, le mystère du passage vers cette terre promise pour toujours. On le vit ensemble. Et c'est ça, en fait, ce qu'on vit. C'est-à-dire que les personnes ne sont pas seules. On le vit ensemble. Et ça, je pense que c'est une clé qui est superbe. On le vit ensemble. On le vit ensemble et en fait, les personnes qui paraissaient tristes, fatiguée, et bien en laissant s'ébranler, bouger, reprendre des forces, sourire, et en fait on s'élève ensemble en confiance, en recevant des grâces, en demandant aussi à celui qui est la vérité, le chemin et la vie. Et ça, c'est hors de prix. Souvent, nous leur demandons s'ils sont OK pour que nous les emmenions dans nos prières, et c'est très majoritairement un oui net. Je vois que vous allez m'arrêter, mais il me reste ça.
Je vous laisse finir. 5 lignes.
Ok. Auprès de la personne Marianne Aluquet, précaire, on appelle précaire, ça c'est un mot que j'ai appris là-bas. C'est une personne qui est inconsciente ou dans le coma. nous restons un moment en présentant au Seigneur ce qui nous est donné d'être là, maintenant, et proche d'elle. Et si la famille est présente, eh bien, nous allons avoir voilà, aussi un accompagnement avec elle. Et souvent, c'est très fort, et on parle, et ils disent, elle entend tout. Voilà. En fait, c'est un plus de vie. Pour celui qui est visité, au seuil du dernier souffle, et pour celui qui visite. Et aujourd'hui, c'est la fête de Saint Jean de la Croix. Alors, j'ai vu que, voilà, lui, Saint Jean de la Croix, il a une prière qui est super et qui dit « C'est vers un amour que je marche en m'en allant. Je crois qu'un grand amour m'attend. »
J'ai bien fait de ne pas m'arrêter. Non, mais chacune a parlé avec des mots. En fait, on sent, en tout cas, chacun ayant sa propre tonalité, ses histoires, on sent cette manière d'entourer le patient. Vous avez peu parlé des familles, mais peut-être qu'on aura l'occasion aussi, parce que une unité de soins palliatifs, ça donne une coloration très très médicale, mais les soins palliatifs, c'est aussi l'accompagnement des familles. Et le travail des accompagnants et de l'aumônerie, c'est aussi d'entourer les familles dont quelquefois il peut y avoir de l'incompréhension, du désarroi, du déni. Et c'est tout ce travail que vous faites. Je dirais peut-être un mot de l'importance aussi des familles dans cet accompagnement. Mais je ne voulais pas vous arrêter, je voulais juste qu'on ait quand même le temps d'un échange avec la salle. Parce que je suis sûr qu'il va y avoir plein de questions, à la fois peut-être sur les soins palliatifs, la manière dont ça fonctionne, vous avez essayé d'en rendre compte, mais aussi peut-être les spécificités de chacun, le dialogue particulier qui se noue, les complémentarités, qu'est-ce qui fait, bien sûr, les moments de prière, là on voit bien l'Eucharistie, on voit bien le travail de l'aumônerie et sa présence, mais... Ce dialogue singulier, comment est-ce que vous le nouez avec les patients? Et puis peut-être que la salle, si on a un micro, voilà, va avoir aussi envie de poser des questions sur le fonctionnement de la maison Jeanne Garnier, mais aussi le travail de chacune.
Il y a une première question.
Un premier remerciement surtout. Pour ces très beaux témoignages qui me confortent dans l'idée que pour bientôt ma retraite, je vais m'orienter de ce côté-là. En tout cas, non, ce qui m'intéresse, à la maison Jeanne Gardier, vous ne vous occupez pas du tout d'enfants, en fait.
Il n'existe pas du SP pédiatrique, en fait, il n'existe pas. Il y a des HAD souvent, non, il y a des équipes mobiles, très souvent, ils sont pris en charge avec des équipes de pédiatrie ou, par exemple, les hôpitaux spécialisés à Necker, et très souvent, ils enchaînent avec des HAD. Mais on a déjà reçu des enfants, vraiment de façon assez exceptionnelle, et des enfants qui sont plutôt des adolescents, on a eu depuis 15 ans. Voilà, donc ça, mais c'était vraiment très ponctuel. Pour les équipes, c'est compliqué aussi, hein, donc voilà, c'est encore autre chose. Et puis aussi, c'est par rapport aussi, c'est notre prise en charge, entre guillemets, au niveau en tout cas médicamenteux, pharmacologique. Il faut aussi des traitements adaptés au poids et à la taille de l'enfant, surtout au poids. Et ça, voilà, on a une pharmacie à usage interne, et donc on n'a pas la capacité de pouvoir recevoir un patient comme ça isolé, c'est plus compliqué. Donc, et pour les soignants aussi, on n'est pas formé en pédiatrie. Et ça n'existe pas.
Alors, je précise, mais sous votre contrôle, ce qui ne veut pas dire que les enfants ne bénéficient pas de soins palliatifs. Hein. Ils peuvent en bénéficier. D'abord, il y a des équipes mobiles, vous l'avez rappelé, spécialisées pédiatrie, qui peuvent intervenir sur le territoire. Et puis, dans un service hospitalier, on n'est pas. Il peut y avoir aussi des lits identifiés. Soins palliatifs qui vont permettre non, pour les patients qui ne sont plus qui ne bénéficient plus de traitement curatif ou qui sont qui nécessitent une médicalisation lourde, il peut y avoir dans un service de cancérologie par exemple des lits dédiés aux soins palliatifs sans que le patient aille dans une unité de soins palliatifs. Donc ces enfants-là ont
bénéficient quand même de soins palliatifs, hein, même si à Jeanne Garnier, ils n'ont pas de lit spécialisé, enfin d'unité spéciale pédiatrique. Est-ce qu'il est...
Je voudrais savoir quel est le pourcentage de personnes qui peuvent ou ne peuvent pas entrer en unité de soins palliatifs en fonction des places disponibles en France. Quelle est la liste d'attente, le temps d'attente, par exemple, pour celles qui souhaitent rentrer à Jeanne Garnier?
Non, à Jeanne Garnier. Et puis après, je dirai peut-être un mot, mais vous retrouverez quelques données sur la note que je vous ai faite. Il y a quelques données sur... C'est malhabile de le dire comme ça, mais entre l'offre et la demande. Le décalage qui peut exister en matière de soins palliatifs.
En termes du SP, sur la France, il y a clairement des inégalités territoriales. Hein. L'Île-de-France est la région la mieux dotée. Il y a des, je crois que ce sont des Alpes-Maritimes, mais encore rien. Il y a, vous pouvez retrouver ça au niveau Et vous aurez les chiffres, et encore ils sont pas si récents que ça. À Jeanne Garnier, en fait, notre force aussi, nous sommes le plus grand centre en termes de nombre de patients. 81 lits uniquement dédiés aux soins palliatifs, c'est énorme en fait. Vous verrez souvent des USP de 10, 12, voire 20 lits, mais jamais plus. Et donc, on a cette chance-là où on peut quand même recevoir les patients, mais comme on se doit de recevoir les situations les plus complexes, voilà. Donc, c'est par ce biais-là qu'on fait les admissions et d'essayer de prendre les plus complexes, les plus urgents, les domiciles, hein, très souvent, hein, quand les gens sont hospitalisés, on se dit quand même qu'il y a une équipe soignante tout autour. Donc, on essaie d'aider et de choisir les malades les plus spécifiques et qui nécessitent une prise en charge très rapide en USP. Je suis désolée, je n'ai pas du tout les chiffres en tête sur entre la demande et le nombre. En tout cas, il y a au moins 1400 patients qui viennent à la maison médicale par an. Et la plupart sont âgés de plus de 70 ans. Et on a un taux de mortalité assez élevé par rapport à d'autres USP intra-hospitalières où il y a un turnover un peu plus important et une prise en charge palliative peut-être plus précoce. Comme je vous dis, on a le biais de prendre les situations les plus compliquées ou les fins de vie compliquées à domicile. On a un taux de mortalité assez élevé, aux alentours de 85% de nos patients décèdent à la maison médicale Jeanne Garnier. Et sur les 15% restants, soit on peut envisager une autre structure, EHPAD, voire SSR, ou alors HAD aussi. Voilà, retour à la maison via une hospitalisation domicile.
Je ne vais pas multiplier les chiffres, mais pour quand même essayer de répondre à votre question. Alors, on l'a bien dit, il y a des unités de soins palliatifs, il y a des équipes mobiles de soins palliatifs, et puis il y a des lits identifiés soins palliatifs en France. Grosso modo, même si les chiffres font un peu sordides, il y a environ 40% des gens qui décèdent à l'hôpital qui bénéficient de soins palliatifs. À domicile ou en EHPAD, hein, on considère que l'EHPAD, c'est aussi la résidence, le domicile de la personne. C'est beaucoup plus compliqué de savoir quelles sont les personnes touchées par ces équipes mobiles, puisqu'elles peuvent intervenir soit ponctuellement, soit plus longtemps. Et puis des lits identifiés soins palliatifs, il y en a environ 5000 en France. Le gros problème, c'est en fait dans les EHPAD. Il y a très très peu de lits identifiés soins palliatifs dans les EHPAD. Grosso modo, on peut dire qu'ils ne savent pas faire. Ils signent des conventions avec des unités de soins palliatifs. Et généralement, le patient, il est envoyé dans une unité de soins palliatifs quand il ne peut plus être pris en charge par les équipes des EHPAD. C'est un peu le gros point noir, si vous êtes d'accord, pour dire, en matière de soins palliatifs. Vous entendrez aussi souvent dans le débat public... Vous entendrez souvent dire il y a plus de 20 départements en France qui n'ont pas de soins palliatifs. C'est faux. Des soins palliatifs, il y en a à peu près sur l'ensemble du territoire. Mais ce qui est vrai, quand vous entendez cette phrase, c'est qu'il n'y a pas d'unité de soins palliatifs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de service hospitalier spécifique dédié aux soins palliatifs, mais il y a quand même des lits de soins palliatifs, soit dans les services concernés, en oncologie, en gériatrie, dans les services de neurologie. Il y a des lits identifiés soins palliatifs. Et dans certains hôpitaux, dans les situations les plus mauvaises, j'allais dire, des lits identifiés, mais qui n'ont pas forcément un personnel bien dédié à ça, donc des équipes qui ne sont pas forcément bien formées. Il y a un manque flagrant de soins palliatifs en France, malgré 5 plans, vous le retrouverez, hein, j'ai donné les dates, il y a eu 5 grands plans de développement des soins palliatifs, le dernier pour jusqu'en 2024, le quatrième ayant été programmé, puis assez rapidement enterré avec un manque de moyens financiers extrêmement dommageable. Voilà un peu la situation. Une grosse difficulté, l'offre sur essayer de légaliser au sens de permettre qu'il y ait une offre assez régulière et constante. Et puis un gros point noir sur la population des EHPAD, des résidents en EHPAD, qui sont mal pris en charge encore par des équipes qui ne déméritent pas, mais qui n'ont pas les compétences pour le faire, et qui donc souvent envoient à l'hôpital pour que le malade soit pris en charge. Bon, les chiffres aussi sur les décès à jeunes derniers sont un peu plus élevés que la moyenne. Dans les unités de soins palliatifs, il faut aussi rompre avec cette idée un peu reçue que on rentre dans une unité de soins palliatifs pour mourir. C'est pas tout à fait exact. On rentre dans une unité de soins palliatifs parce qu'on a besoin, comme je vous l'avais rappelé, d'une médicalisation lourde. On ne sait plus faire à domicile ou dans les EHPAD, donc on va en unité de soins palliatifs. La moyenne, si on peut dire, c'est plutôt autour de 40-45% de gens qui vont rentrer en unité de soins palliatifs et qui vont y mourir assez rapidement, mais les autres sortent de ces unités et retournent à leur domicile ou en EHPAD pour continuer d'avoir des soins une fois stabilisés, j'allais dire, les symptômes de douleur physique ou psychologique. C'est un peu comme ça. Hein. Peut-être pour des questions sur les accompagnants ou sur l'aumônerie.
Je vais m'adresser aux médecins et je voulais vous demander, est-ce que la présence des bénévoles accompagnants vous gêne ou vous gêne pas? Ma deuxième question porte sur les demandes d'euthanasie. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là?
Par rapport à la première question, concernant les bénévoles de l'AIM, ils font partie de l'équipe et ils assistent aux transmissions médicales pour savoir un petit peu l'état de santé du patient et savoir un petit peu. Et ils nous sont très utiles, hein, on travaille vraiment en équipe et ils nous font partie de l'équipe. D'une part, parce que comme je le disais, ils vont recueillir une facette du patient que nous, en tant que médecin, la blouse blanche, hein, vous savez, moi j'ai souvent le cas où les gens disent « Non, ça va docteur, merci beaucoup, voilà, on va surtout pas le froisser. » Et voilà, les choses sont dites autrement à d'autres personnes. Le bénévole n'est tenu de nous dire et de nous informer que des informations qu'il pense être pertinentes pour la prise en charge en équipe. Donc tout ce qui est du lieu de l'intimité, de ce rapport, voilà, vous avez en toute intimité, vous êtes propre et c'est vous qui décidez de là, ça peut être intéressant pour nous guider et pour qu'on travaille mieux encore auprès du patient. Et puis concernant l'aumônerie, ben voilà, c'est une évidence pour nous que les prises en charge spirituelles sont extrêmement importantes et qu'une aumônerie doit être présente sur place dans ces cas-là, évidemment. Et grâce à vous, en effet, on peut aussi accéder à différents ministres du culte, voilà, si on a besoin. Et donc c'est vraiment très important là-dessus. Donc, et concernant les demandes d'euthanasie, alors, il faut les recevoir et surtout dire non, c'est pas possible, salut, au revoir. Donc, c'est vraiment de savoir les accueillir et c'est surtout de, comment dire, c'est le moment où on va s'inscrire dans un véritable échange et justement le patient va être encore plus le sujet des soins. Et alors, il faut le savoir, il y a une étude qui a été faite à la maison médicale Jeanne Garnier sur environ 2100 patients. Il y avait à peu près au moment de l'entrée, 60 patients qui étaient demandeurs d'euthanasie ou de vouloir, en tout cas, d'évoquer le fait de vouloir mourir. Et, parce que souvent, c'est aussi ça, il y a la demande d'euthanasie, mais il y a des patients qui vous disent « je veux mourir », mais qui ne vous demandent pas de le faire. Il faut juste pouvoir accueillir, dire « ben voilà, ils sont fatigués, ils sont prêts ». Et voilà, mais c'est en 30, voilà. Donc il ne faut pas avoir peur de ces mots-là, il faut surtout justement redemander de quoi s'agit-il et de quoi nous sommes en train de parler. donc de prendre le temps de vraiment comprendre quelle est la parole qui nous est donnée. Et donc, sur ces 60 patients, bah, si, au bout de quelques jours, il ne reste plus que 6 patients, ce qui fait 0,03% si on fait les chiffres de demandes qui persistent dans le temps. Donc, vous voyez, on se rend compte que déjà, il n'y en a pas tant que ça, et qu'après une prise en charge de qualité, bah, les demandes diminuent drastiquement, parce que très souvent, bah, oui, il y a eu une prise en charge extrêmement dure au niveau de l'hôpital. Les gens sont malmenés quand ils sont déjà soulagés de leur douleur et qu'ils sont vus avec justement dignité. Alors moi, la dignité, pour moi, c'est ontologique. Hein, donc évidemment, toute personne est digne. Mais voilà, en tout cas, quand ils voient dans nos yeux qu'ils sont redevenus sujets, acteurs et qu'on prend pleinement soin d'eux et que c'est à eux qu'on s'adresse, voilà, les demandes baissent petit à petit. Et puis, quand ce n'est pas le cas, on revient aussi dans le cadre de la loi. On dit qu'on entend bien, éventuellement comprendre sa demande, mais que la loi actuelle ne nous le permet pas, ne nous autorise pas à ça, et qu'on peut proposer différentes pratiques. Déjà, évidemment, comme je vous disais, s'assurer qu'au niveau de la prise en charge de la douleur, les gens sont bien soulagés, qu'on a tout fait, de la prise en charge aussi psychologique. Si ce n'est pas le cas, bah, c'est de proposer ce qu'on appelle des pratiques dites sédatives. Je dis les pratiques sédatives parce que la sédation profonde, maintenue et continue jusqu'au décès en est une toute particulière. Mais on peut proposer déjà un traitement pour bien dormir la nuit. Vous savez, quand vous êtes très fatigué, vous somnolez dans la journée, les nuits sont longues. Donc déjà passer un petit temps bien dormir, voilà, le temps où on n'est pas en train de cogiter, ça peut faire du bien. Peut-être majorer aussi le traitement anxiolytique, voilà, pour apaiser, pas forcément que de façon médicamenteuse d'ailleurs, hein, ça peut être de l'aromathérapie, des massages, de la présence, de la psychothérapie, voilà, pas mal de choses. Donc c'est vraiment s'assurer que est-ce qu'on passe pas à côté de quelque chose, est-ce qu'on a bien tout proposé. Et d'être surtout là pour parler et savoir de quoi il s'agit. Et c'est surtout d'accueillir cette parole-là, parce que ben voilà, c'est de dire qu'on entend et qu'on est là. Et que c'est pas parce qu'on ne peut pas le faire qu'on va l'abandonner en disant « ben voilà, je parle encore pour vous alors, je vous conseille la Suisse ou la Belgique, voilà, mais c'est pas du tout ça, et donc on en parle. » Et quand on arrive et que ça poursuit, bah, on peut évoquer la sédation, et donc c'est notre devoir aussi en tant que médecin de savoir proposer aussi les pratiques sédatives aux patients, et même avant même qu'ils le demandent, quand on sent voilà, qu'on va arriver peut-être toucher à nos limites, hein, de notre prise en charge, on n'arrive pas toujours à soulager toutes les douleurs et ni toutes les difficultés respiratoires, et parfois bah, ça fait partie de notre arsenal. Et on peut arriver à des pratiques sédatives quand on est justement dans des symptômes dits réfractaires, c'est-à-dire que quand vous avez des difficultés respiratoires et que chaque fois que vous avez des états de conscience, de vigilance normale, vous n'êtes absolument pas bien, bah de somnoler peut permettre de vous apaiser et de favoriser une meilleure respiration. Parce qu'en fait, la sédation, qu'est-ce que c'est? C'est baisser la vigilance, c'est baisser votre état de conscience au monde extérieur. Bah, ça peut être déjà d'être un peu somnolent, mais de pouvoir répondre un petit peu, c'est pas forcément de dormir très profondément, il est dans un état de coma. Donc on peut proposer des traitements pour baisser cette vigilance, et c'est ça le but des pratiques sédatives, c'est de baisser la vigilance suffisamment pour baisser la perception de la souffrance, ou voire carrément de faire la faire disparaître auprès du patient. Donc voilà, donc il y a plein de types de pratiques sédatives.
Peut-être, si vous voulez passer peut-être qu'on peut demander aussi, parce que vous devez être confronté à ces demandes. Vous m'entendez quand même? Accompagnant comme aumônier, vous devez être confronté à ces demandes aussi. Alors, vous avez rappelé qu'il faut distinguer la demande de mort et la demande d'euthanasie. La demande d'euthanasie, elle est identifiée quand même par les médecins, les soignants, comme une demande répétée, hein, réitérative d'une personne qui a sa volonté, qui est consciente, qui est maître de ses raisonnements et qui le répète de manière constante. La demande de mort, comme vous l'avez dit, ça peut être une situation de douleur particulière ou de dépression, et celle-ci, elle peut se traiter, j'allais dire. Vous, à l'accompagnante ou à l'aumônerie, comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous renvoyez la balle aux soignants, ou est-ce que vous abordez cette question? La demande de mort, c'est pas simple à gérer avec les patients.
Là, vous pouvez commencer. Hein, si vous...
Je ne sais pas, je vois par exemple une personne récemment qui est arrivée à un moment, il y avait de la famille qui arrivait, et j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'important qu'elle était en train de dire, et je leur ai fait comprendre qu'on allait tous se mettre en écoute. Et là, elle a parlé dans des souffles, et elle disait, voilà, j'ai failli mourir, mais je vais mieux, mais ma prière, c'est de demander de mourir très vite. Et en fait, on sentait que là, elle nous livrait vraiment quelque chose de très profond en elle. Donc en fait, elle nous le partageait. Et déjà, de nous le partager, elle s'entendait le dire. Et voilà.
Pour nous, on n'a pas beaucoup de différence avec ce que vient de dire Myriam. C'est-à-dire qu'ils expriment plutôt... qu'ils ont envie de mourir, qu'ils auraient, comme je vous disais tout à l'heure, ce monsieur qui disait j'aurais mieux fait d'aller en Suisse, qui évoquait ces choses-là, mais ils ne nous demandent pas à nous quoi que ce soit, puisqu'ils savent bien qu'on n'est pas soignants. Donc simplement, ils partagent avec nous leur désarroi, leur crainte, leurs appréhensions, mais autrement, s'il y avait quelque chose de plus précis, ça m'est arrivé quelquefois qu'un malade me dise qu'il avait envie, qu'on ne l'écoutait pas, des choses comme ça. Je me rappelle une fois, c'est arrivé. Et je dis un mot à la responsable des infirmières. Bon, voilà, genre qui m'avait dit ça, mais bon, ça s'est arrêté là, puisque ce sont les soignants qui traitent ce sujet-là, essentiellement.
En fait, quand on est auprès d'eux et que voilà, c'est le moment de prier, on sent, il y a des personnes qui ont peu de force et qui vont, on a des mots, des prières courtes, hein, le sujet avait un compliment très court, et ils répètent ce qu'on dit, et ils répètent les mots, la prière devient leur prière, leurs mots, et en fait il y a une espèce de paix, de voilà, en fait ils ont été renouvelés, ils ont renouvelé leur force, ils ont renouvelé, il y a un apaisement qui se fait sentir. Maintenant, je vais revenir sur les familles, les proches. On a des accompagnements quand la personne est précaire, des accompagnements de l'époux, de l'épouse, des enfants, et là, qui sont très forts. Et j'en vois une qui voyait son père, et elle était en colère. Elle disait, mais il a 79 ans, il avait encore plein de choses à vivre. C'est pas possible. Elle le voyait devenir violet, qui était un signe de ce que les choses avançaient. Et en fait, voilà, moi, j'ai eu un accompagnement avec elle. On a pu échanger sur des... Et voilà, il y a eu aussi un apaisement et de consentir à notre impuissance et en même temps de se laisser mener par son papa et qui l'emmenait aussi vers quelque chose de nouveau pour elle et d'entendre, voilà. Donc ça, ce sont les accompagnements.
Est-ce qu'on prend une dernière question ?
Merci, si c'est la dernière question. C'est plutôt une question pour le médecin. Je voulais savoir si cette sédation profonde peut être pratiquée également à domicile dans la mesure où la personne n'aurait pas pu entrer en soins palliatifs. Et dans ce cas-là, qui décide de l'appliquer? Est-ce que c'est le seul médecin traitant qui vient à domicile, puisqu'il n'y a pas toute une équipe soignante comme chez vous?
Alors, de principe, c'est censé être praticable partout, mais avant de réaliser la sédation profonde, maintenue et continue jusqu'au décès, il y a d'abord une réunion collégiale qui doit avoir lieu pour savoir si le patient présente bien les trois critères dont on vous a parlé. Donc à partir de là, c'est le médecin qui prend en charge le patient et justement un médecin extérieur qui ne connaît pas le patient pour s'assurer que la réunion a eu une procédure tout à fait correcte, qu'on a bien posé les bonnes questions, que tous les intervenants, tous les soignants qui connaissent le patient ont pu s'exprimer. Et que les critères sont bien remplis. Je vais juste revenir très rapidement sur ces trois critères pour voir là où le bât blesse, entre guillemets. Donc le premier critère, comme on vous disait, c'est d'être atteint d'une maladie grave et incurable avec un pronostic fatal. Le deuxième critère, donc on revient sur les souffrances dites réfractaires. Alors on ne se repose pas alors en équipe la question est-ce que le patient souffre pas. Bien sûr, quand quelqu'un nous dit qu'il a mal et qu'il souffre, il souffre, que ce soit moral, physique ou psychique, nous devons nous assurer que nous avons tout proposé au patient, que vraiment nous n'avons rien oublié, que voilà, et que le patient est d'accord, il peut comme d'habitude, refuser ces traitements-là, mais nous assurer qu'on a bien tout proposé et que ces possibilités thérapeutiques peuvent être instaurées rapidement et sans effet secondaire pour le patient aussi. Donc ça, c'est, on fait fort de ces critères-là. Et le troisième critère, on vous parlait donc d'un pronostic vital engagé à court terme. Alors le court terme, la SFAP, et puis il y a aussi, donc c'est la Société de soins palliatifs européenne, disent quelques heures, 7, voire 15 jours. Pourquoi ? Parce que quand on va mettre en place une sédation, on va utiliser un traitement qui va endormir. On n'est pas dans l'anesthésie, on favorise le propre sommeil du patient. Et donc, qui peut parfois avec des thérapeutiques, donc il faut qu'on soit sûr que le patient soit bien endormi. On suit toujours les traitements antalgiques, évidemment, mais on ne poursuit pas et on n'instaure pas ni d'hydratation, ni de nutrition. Et donc, le patient va décéder de l'évolutivité, de l'évolution naturelle de la maladie, et non pas de l'absence d'hydratation ou de nutrition, pour pas que ce soit une euthanasie cachée, ce qu'on pourrait souvent reprocher à cette sédation. Donc le patient va décéder de sa maladie, bien endormi, donc sans lien avec le monde extérieur. C'est une mort relationnelle, sociale, mais voilà, qui n'est pas liée au fait de l'absence de soins ou de traitement, puisque maintenant, grâce à différentes affaires, la nutrition artificielle, je ne parle pas d'alimentation, je parle de nutrition artificielle et d'hydratation, ce sont des traitements. Voilà, l'alimentation, c'est de faire le besoin, si on peut maintenant l'avoir le temps qu'on peut, mais la nutrition artificielle, c'est un traitement. Voilà, c'est vraiment très important et c'est pour ça qu'on est sur un pronostic à court terme par rapport à ça. Et contrairement à ce qu'on peut croire, il y a parfois des croyances, donc c'est une euthanasie cachée, donc si on fait une sédation, le patient va décéder très rapidement. Ben non, et puis ça peut prendre quelques jours. Pendant ce temps-là, ben, le corps continue malheureusement de s'altérer puisqu'il y a une maladie évolutive qui est derrière qui continue à prendre de l'énergie. Donc, très souvent, il y a une cachexie terminale qui continue. Et donc, nous, on prendra toujours soin des patients, on les mobilise, on les soigne, on les lave. Mais voilà, et c'est pas si évident. Et ça, il faut expliquer parce qu'on a tendance à croire que bon, au bout de quelques heures, ça sera terminé. Ben non, ça peut durer quelques jours. Ça, c'est pas si évident que ça. Ou contrairement, parfois les gens pensent que ça va au contraire faire durer. Donc c'est pour ça que c'est très important quand il y a des demandes d'euthanasie, etc., de détricoter tout ce qu'il y a derrière tout ça, derrière cette demande de mourir, derrière tout ça. Souvent les gens parfois ont peur de mourir, peur de souffrir au moment de la mort. Ils disent j'ai pas peur de la mort, mais j'ai peur de mourir. Voilà, donc ont peur des souffrances. Et c'est de leur dire bah, nous, on sera là. On sera là. Et on fera tout ce qu'on peut et on vous lâche pas. Et on sait faire, voilà, on sait faire, on a des prescriptions anticipées, etc. Et voilà, c'est vraiment ça le plus important.
Oui, juste une précision là-dessus, vous entendrez aussi dans le débat public beaucoup de polémiques hein, sur ces sujets de la sédation profonde et continue jusqu'au décès, notamment... de l'association principalement militante l'ADMD qui dit c'est une souffrance supplémentaire qui est imposée aux patients qu'on n'alimente plus, qu'on n'hydrate plus. Ça c'est une idée militante fausse hein, selon tous les médecins spécialistes. Un patient en fin de vie généralement ne s'alimente plus que très 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 peu, ne souffre pas de la faim et l'hydratation elle peut être d'ailleurs maintenue un petit peu, mais elle causerait plus de problèmes que qu'elle ne résoudrait. Le patient ne souffre pas de ces deux choses. Le point qui est discuté, qui restera insoluble, sauf si vous avez un avis tranché là-dessus, c'est est-ce que cette sédation profonde et continue entame la durée de vie prévisible du patient ? On n'a aucune étude, aucune certitude pour, aucune certitude contre, parce qu'on serait incapable de mener une étude scientifique entre des patients qui en bénéficieraient en fin de vie de cette sédation et des patients qui n'en bénéficieraient pas. La manière de régler cette question-là, c'est un peu la règle éthique du double effet, comme on dit. C'est-à-dire que le rôle des soins palliatifs, c'est de tout mettre en place, d'abord d'un point de vue médical et technique, pour éviter les souffrances, en prenant parfois le risque d'abréger
un peu la vie du patient, mais l'intention n'est pas là. L'intention est celle de supprimer les souffrances du patient et on n'en crée jamais de supplémentaires dans cette pratique. Et en revanche, le vrai problème qui est posé à travers ça, c'est plutôt celui du pronostic vital à court terme. Il faut qu'il y ait un pronostic vital à court terme et le débat portera là-dessus. Est-ce que certains patients qui auront des pronostics engagés à moyen terme peuvent être laissés en dehors de ces dispositifs? Ce sera peut-être un des points qui sera débattu dans cette convention et dans les autres instances. Est-ce qu'il faut élargir cette sédation à d'autres patients? Il me reste... On conclut, Marie-Christine, sauf s'il y a vraiment une question très très importante qui surgirait, mais je pense qu'on va conclure. En vous remerciant toutes les trois, Myriam, Isabelle, Marianne, et vous tous aussi, le père Emmanuel, Marie-Christine, tous ceux qui ont organisé cette soirée. Moi-même, je vous remercie de nous avoir écoutés avec, j'espère, intérêt. Et puis, peut-être qu'on se retrouvera une prochaine soirée pour poursuivre ce débat, puisqu'il va durer encore quelques mois, peut-être jusqu'en mars en tout cas, et que peut-être que vous organiserez de nouveau une soirée pour rendre compte de la manière dont il avance. En tout cas, merci beaucoup.
D'avoir animé ce débat et pour l'exposé clair que vous retrouverez donc sur une petite feuille qui est distribuée à la sortie à ceux qui le souhaitent. Et je voulais juste retenir six petites phrases un peu fioritiques que j'ai entendues ce soir. Alors vous verrez, vous retrouverez qui les a dit ou qui les a rapportées, mais des petites phrases comme ça qui ne sont pas censées faire une synthèse, mais juste des belles phrases entendues. On considère nos patients comme des diamants. Cette femme, je n'arrive pas à l'oublier alors qu'on n'a pas échangé un mot. J'en mets 6, j'en mets une 6e parce qu'il y en a une que j'aimais bien. Les voilages de la fenêtre qui remuaient doucement dans l'air du soir. Mes derniers jours, je veux les vivre, je ne veux pas les compter. Qu'est-ce que vous diriez de me faire un sourire? Je crois qu'un grand amour m'attend. Alors, pour des choses plus prosaïques, je vous rappelle qu'au fond, Emerance tient un stand de librairie où vous retrouverez des livres sur le sujet de la fin de vie. Il y a également quelque part une urne pour des dons, pour la paroisse, qui est là-bas, à côté de la librairie aussi. Et le père Emmanuel propose que ceux qui souhaitent poursuivre la réflexion, notamment autour du texte des évêques sur le sujet, qui s'appelle « Ô mort, où est ta victoire ?», donc ceux qui souhaitent poursuivre la réflexion peuvent donner leur adresse mail pour qu'on leur envoie ce texte avec un guide de lecture de ce texte, sachant qu'il y aura aussi peut-être à la clé des propositions, notamment d'une soirée prière sur le sujet. Donc n'hésitez pas à laisser vos adresses mail au Père Emmanuel, à la sortie, là-bas aussi. Enfin, tout se passe au fond, vous verrez. Bonne soirée, merci d'être venus nombreux et la France a gagné 2-0.